Alors, j'ai trois avis avant de commencer le vif du sujet. Le premier, c'est pour vous annoncer que nous avons à Chémeray, fin août, Chémeray, c'est le couvent où nous habitons, il y a de la place pour là. Mais prenez une feuille à l'entrée. Voilà, nous avons une session qui s'appelle Foi et raison pour les 18-35 ans, donc c'est toujours le créneau qui est visé théoriquement par le Café Caté. Alors, ça sera une session très intéressante, évidemment, avec il y aura cinq pères qui interviendront sur des thèmes comme la relation de la science et la foi, les sciences modernes, le Big Bang, l'évolution, la relativité, et puis d'autres domaines plus philosophiques, la loi éternelle, la loi naturelle, la révélation, la prophétie, les fins dernières, voilà. Donc c'est une session du 27 au 31 août. Alors vous allez sur notre site et vous voyez, si vous avez un créneau libre, ça sera une ambiance sympathique, détendue, pieuse et spéculative. Voilà. La deuxième annonce, c'est plus personnel. Donc j'ai perdu ma mère lundi matin, donc c'était hier. Voilà, donc je recommande à ceux qui la connaissaient ou qui connaissent ma famille d'accompagner sa belle âme de leur prière. Et puis à vous d'être peut-être un peu plus indulgents si je m'embrouille. Ou si je... Bon, parce que c'est des choses, vous savez, qui sont toujours... quel que soit l'âge qu'on a, on est toujours un enfant. Donc quand on perd sa maman, on est un petit peu fatigué. Donc l'enterrement aura lieu, la messe d'obsèques à Saint-Eugène, jeudi à 14h30. Alors, donc nous rentrons dans le troisième volet, dernière partie de nos conférences sur l'apologétique. Donc c'est la 12e conférence. Là, on va avoir trois conférences qui sont des confirmations. Vous voyez, si on a suivi le schéma, on a normalement une preuve claire de la crédibilité du christianisme et spécialement de l'Église catholique. Puisque, spécialement dans les deux derniers Café Caté, on a montré... Bon, donc je rappelle au nouveau que le seul luxe que je demande, c'est de rien dire. Sauf au moment des questions. Parce que c'est, voilà, il y a un retour qui est immédiat pour la fatigue du prédicateur. Surtout en été où il y a la rue des écoles qui est animée. Donc, on a montré de façon rationnellement décisive, mais attention, il peut y avoir des obstacles pour la compréhension, à cause du péché. Pie XII l'a rappelé dans une grande encyclique en 1951, ce qui est vrai n'est pas toujours compris à cause de nos passions. Bon, mais si on a suivi le raisonnement, après avoir donc appuyé une démonstration très forte de l'historicité des évangiles, on a montré que les miracles du Christ, la réalisation des prophéties, était un argument de raison en faveur de ce qu'il disait, d'avoir qu'il était Dieu, et ensuite que cet argument de raison très fort, donc pour la divinité du Christ, pour la fiabilité de ce qu'il dit, était confirmé par le caractère magnifique de la doctrine catholique. Alors c'est une confirmation seulement, vous voyez. La preuve, c'est que le Christ a été prophétisé, qu'il a réalisé ce qui était prophétisé, et qu'il a fait des miracles pour prouver qu'il était bien celui qui réalisait. Et nous savons que c'est les miracles parce que les évangiles sont historiques. Alors ça, c'est l'axe de l'affaire, les évangiles sont historiques. Donc c'est un point très important qui est mis un peu en doute par pas mal de gens actuels. Donc ceci étant fait, nous sommes passés après à l'Église, et nous avons montré, d'après les textes de l'Évangile, que la vraie Église du Christ se trouve là où il y a la succession apostolique. Donc vous pouvez venir par là, il y a de la place, allez-y, comme ça vous serez bien. Il y a encore de la place. Donc la vraie Église de Christ ne peut se trouver que là où il y a la succession apostolique, simplement à partir de la texture même des évangiles. Après dernier Café Caté, quelqu'un est venu me dire, et puis également on a prouvé, alors je fais deuxième conférence, on a montré que la vraie Église de Christ se trouvait là où il y avait quelqu'un qui s'affirmait avoir le primat de juridiction. Vous voyez que c'est assez athlétique, un Café Caté. Donc c'est pour ça que je demande le silence, mais bon, comprenez. Puis il y a le prédicateur plus ou moins maniaque, et j'en fais partie. Plus ou moins chauve-souris, donc... ce deuxième Café Caté, on montrait que la vraie Église du Christ se trouve là où il y a un primat de juridiction. Et de fait, il y a un seul lieu où il y a quelqu'un qui dit être le successeur de Pierre, avoir une juridiction sur toute l'Église, c'est l'Église romaine. Donc, si vous voulez, du point de vue de la raison, on arrive à cette conclusion... voilà, solide. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va nous donner la foi, mais n'oubliez pas une chose très importante sur laquelle le cardinal Journet revient très souvent, c'est qu'en apologétique, c'est L'apologétique, c'est une partie de la théologie par laquelle le chrétien se conforte pour aider les gens qui ne sont pas dans la vérité du Christ à y venir. Et il faut que vous sachiez bien qu'il ne s'agit pas de faire monter les gens par nos forces de la raison à la foi. Enfin, ça serait contradictoire. La raison, c'est très bien, moi je suis à fond pour. Hein, ça fait 40 ans que j'ai un bac plus 40, si vous voulez, donc je suis assez pour ça, bon, d'accord. Et donc, on bosse comme des fous pour la raison, mais c'est en dessous de la foi. Donc, on ne peut pas monter de soi de la raison à la foi sans la grâce. Mais quand on fait de l'apostolat, hein, ce qui est l'apologétique un peu appliquée, si vous voulez, on parle à des gens qui sont attaqués, c'est l'expression de journée, par la grâce du Christ. Donc, vous parlez à des gens que le Saint-Esprit travaille pour les mettre dans la vérité de l'amour et de la vérité du Christ pour qu'ils arrivent au salut. C'est la différence fondamentale de l'apostolat des chrétiens et des catholiques avec celui des témoins de Jéhovah ou d'autres groupes religieux, c'est que eux, le Saint-Esprit, n'aide pas leur interlocuteur à adhérer à ce qu'ils disent. Aucun chrétien ne peut dire le contraire à ce que je vous dis. Il y en a plein qui le disent, mais justement, c'est plutôt marrant, ça met de l'ambiance dans l'Église, parce qu'il y a pas mal de désordre actuellement, les gens ne voient plus les choses qui sont des évidences. S'il y a une vraie Église, c'est clair que le Saint-Esprit travaille pour que les gens aillent dans la vraie Église, quoi. Bon, c'est quand même un petit peu logique, hein. Sans faire de la logique de concurrence, bon, voilà. Donc, quand vous faites de l'apologétique, le principal travailleur, c'est le Saint-Esprit. Et donc, vous parlez à un gars, dans le métro, dans le RER ou que sais-je, même ici au Café Caté, qui est attaqué par la grâce du Saint-Esprit. Donc, il a des choses surnaturelles en lui qui sont moins, même s'il n'a pas l'état de grâce, qui sont moins l'attaque du Saint-Esprit. Et vous, vous lui montrez que s'il dit oui au Saint-Esprit, sa raison va être remplie. Vous voyez, c'est très intéressant comme démarche. C'est-à-dire, on ne force pas les gens parce que ce n'est pas votre démonstration qui va faire. La foi, ce n'est pas la conclusion d'un raisonnement. Hein. La foi, c'est une ouverture au mystère, mais le fait de savoir que c'est un mystère dans lequel il y a plein d'intelligence, c'est sympa. Voilà. Moi, j'ai apprécié, quand j'ai retrouvé la foi, de retrouver que le catholicisme était un lieu de cohérence, un lieu où il y avait le logos, le verbe de Dieu. Donc, voilà. Alors, à la fin de mon dernier café, il y a une dame portugaise, très gentille, qui était montée d'en bas, qui m'a dit, bah, c'est bien ce que vous avez dit, mais vous avez l'air de confondre le christianisme et le catholicisme. C'était le but du café caté de montrer que justement la forme cohérente du christianisme et le catholicisme, ça ne veut pas dire que les orthodoxes n'ont rien de vrai. Mais enfin, la totalité de l'acceptation de l'évangile. Alors je lui ai dit, madame, vous êtes baptisée? Elle m'a dit oui, etc. Bon. Et je lui ai dit, ben, qu'est-ce que vous faites de la parole du Christ? Tu es pierre, sur cette pierre je vais attirer mon église. Et là, elle est passée à autre chose. Bon, voilà. Ça, c'est les rondes. Dans l'apologétique, ça arrive souvent comme ça. Et à un moment donné, on passe à une autre question. Bon. Mais c'était quand même intéressant. Et elle m'a dit, vous avez fait un cours d'histoire de l'église qui m'a beaucoup intéressé. Alors j'espère que ça vous intéressera, moi ça m'a intéressé de préparer. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous intéressera autant d'écouter, mais je peux faire que de survoler. Donc vous pourrez demander vous pourrez demander à Eric l'envoi de l'enregistrement pour écouter éventuellement. Et puis je donnerai à Eric le texte développé parce que vous avez un résumé recto verso. Moi j'ai 5 pages, oui. Je me chouchoute moi-même, j'ai plus de pages que vous. Donc je les enverrai à Eric, s'il fait que vous les trouverez au même endroit. Pour avoir un texte plus complet à mettre sur vos sites, Notre-Dame de Kabylie ou autre, si vous voulez. Voilà. Bon. Donc, voyez, maintenant, on est dans un truc aussi très intéressant. On a fait une démarche. Alors, on suppose qu'elle est faite, au moins hypothétiquement, hein, quand vous... Voilà. Qui arrive à dire, le Christ est crédible, il faut croire ce qu'il dit, et l'Église des chrétiens, donc l'Église romaine, est crédible quand elle dit qu'elle est missionnée par le Christ. Voilà. Alors, maintenant, on fait des confirmations. Alors, les confirmations, c'est pas démonstratif, strictement parlé, si vous voulez, mais c'est plus délectable, enfin, à mon avis. Parce que la preuve a toujours un côté, on se dit, tiens, je suis un peu forcé. On n'est pas vraiment forcé, parce qu'on peut rester athée ou agnostique. Hein. Rassurez-vous, ceux qui sont agnostiques confortables peuvent le rester. Ils ne se sauveront pas s'ils font exprès. Mais bon, c'est un peu ennuyeux pour eux. Mais enfin, ils peuvent quand même rester intellectuels. Mais alors, la confirmation est sympathique. Oui. Et parce que la confirmation, ça nous remplit plein de choses qui sont très belles. Très belles. Et là, il y a 3 conférences, on va prendre comme des confirmations. À savoir le catholicisme, donc le christianisme, là, je parle, c'est catholicisme, puisqu'on a montré que pratiquement c'est celui qui coïncide le plus avec les données du christianisme du Nouveau Testament. Bon, le catholicisme s'est diffusé de façon étonnante, qui sont au moins une interrogation pour la raison. Au moins on doit se renseigner, il y a un très beau texte de Pascal qui s'adresse aux libertins, qui dit vous ne pouvez pas, après ce qu'on a discuté, faire autre chose sans vous occuper, au moins de chercher. Consacrer le temps d'un séminaire professionnel, quoi, c'est quoi, c'est 3 jours à 8 heures par jour et le mec est payé des tas de milliers d'euros, plus que moi pour faire le café caté, tant mieux pour lui le mec, mais consacrer ce temps-là à chercher la vérité du christianisme. C'est logique, hein, puisque c'est votre éternité qui en dépend. Enfin, vous voyez, la politique pascalienne, c'est ça. Donc il y a une confirmation, c'est que le catholicisme se répand rapidement. Le catholicisme, l'église catholique, donc romaine, véhicule une dose de sainteté étonnante, une sainteté éminente. Alors, ça sera peut-être la conférence la plus dure, ça sera la prochaine fois, bon, si on est toujours vivant. Et puis, la troisième fois, c'est qu'il y a dans le catholicisme une unité et une continuité invincible. Jusqu'ici, au moins. Et bon, si on a la foi, définitivement, à cause des paroles du Christ. Alors, ces trois éléments mis ensemble, ceux qui sont pieux et à qui on a offert pour leurs 21 ans le catéchisme de l'Église catholique, iront voir le numéro 813, hein, que j'ai cité ici, qui dit que, en fait, ces trois éléments-là se retrouvent groupés. Ils se trouvent aussi, il y a des éléments de sainteté évidemment très présents dans d'autres confessions chrétiennes, hein, spécialement ceux qui ont le baptême, mais spécialement les orthodoxes sur l'Eucharistie et l'Eucharistie et le sacerdoce. Et puis même en dehors, il y a des éléments de sainteté. Mais l'ensemble des signes, si vous voulez, sainteté, propagation, sainteté et unité, ne se trouvent réunis que dans le catholicisme romain. Vous voyez ? Ça, c'est une chose qui est quand même assez forte. Et ouais, je ne vous dis pas ça pour avoir plus à la quête tout à l'heure. Hein. Si vous mettez, ça fera plaisir à mon économe. Et si vous ne mettez pas, c'est pas grave. Hein. Pas grave pour moi, pour l'économe un peu. Mais... Bon, mais je veux dire, on s'en fout à la limite. Ce qui compte, c'est vraiment la vérité. Moi, ce que je vous dis là, j'en étais quasiment persuadé comme agnostique. Donc, c'est vous dire que ça a quand même, à mon avis, une certaine valeur. Quoi. Vous avez, il n'y a pas photo. S'il y a un truc qui est vrai, dans tout ce que j'ai pu lire de bouddhisme, d'hindouisme, d'islam et d'autres protestantismes, les cathos tiennent plus la route. C'est déjà une, moi, j'inclinais plus vers là. Parce que, bon, il y a quand même ces signes de crédibilité qui s'accumulent, si vous voulez, et qui au moins font une question. La preuve, on énerve les gens. Enfin, j'ai une preuve très basse. Hein, c'est plutôt pour vous réveiller, parce que bon, vous avez une journée chargée. Mais à la fois, on attire, il y a un effet attraction-répulsion dans le catholicisme. C'est que c'est fascinant, assez super génial et tout. Puis en même temps, ils sont chiants, les cathos. Ils ont des trucs moraux, ils ont une morale sexuelle. Ils ont la prétention à être unique. On va retrouver tout ça dans l'Empire romain. Bon. Donc, il y a attraction-répulsion qui, en fait, viennent à la fois, je crois, enfin, du point de vue du chrétien, hein, mais moi, je dirais que ça vient de la cohérence intrinsèque du catholicisme qui est attirant, et puis de notre péché qui nous repousse par rapport à ça. Parce qu'évidemment, c'est exigeant. Vous voyez, mais il y a des gens de bonne foi. L'autre jour, j'étais dans le TGV, qui est un objet que j'utilise assez, enfin, un instrument. Et il y a eu une arrêt de 2 heures parce qu'il y a un gars qui s'est suicidé. Donc, ça m'a permis de causer avec mon voisin, qui était un type à la pointe du progrès, il n'avait pas de portable. J'ai pris le portable de l'autre. Bon. Mais voilà, mais, et je lui dis, mais vous avez oublié, c'est un gars, il a un doctorat en informatique, donc c'est un chercheur. Quoi. Il dit, non, c'est par principe, parce que finit par être trop stressé. Quoi. Et alors, on a pu causer. Et c'est un type bienveillant vis-à-vis de l'Église catholique. Et il m'a dit une chose que j'ai trouvé souriante, si vous voulez, parce qu'elle était de bonne foi. Il m'a dit, mais je suis assez séduit, il n'est pas baptisé, je vais t'entendre la messe avec ma femme qui est baptisée, mais je trouve dommage qu'il y ait des mystères. Parce que la morale chrétienne, elle est bien. Alors pourquoi il y a ces mystères qui viennent compliquer les choses? Vous voyez? Donc, attraction, répulsion. Alors, j'ai essayé de lui expliquer que la morale découle des mystères. Mais bon, dans le temps qui nous restait, je ne sais pas si j'ai réussi. Voilà. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Le catholicisme a cet ensemble de signes et c'est à lui seul qu'il soit. Alors, il faut être attentif. Hein. Je pense qu'à la fois, dans l'apologétique, il faut valoriser ces choses-là, mais il ne faut pas non plus faire l'apologétique du mépris. C'est-à-dire qu'il faut montrer les erreurs des autres, mais il ne faut pas s'en délecter comme si ça nous rendait des mecs super balèzes. Hein. Parce que c'est vulgaire. Vous voyez, je veux dire, il y a des moments où il faut se friquer, d'accord, poliment, mais quand même, il faut dire, vous avez une grandeur dans votre religion, mais vous oubliez tel élément, ce qui est habituellement le cas. Il y a certaines religions que je n'aimerais pas, que certains vont reconnaître assez vite, qui insistent sur la transcendance de Dieu, elles ont raison. Dieu n'est pas directement, tout de suite, comme ça, un copain de l'homme. Alors le Christ s'incarne, et donc, voilà. Mais c'est incroyable qu'il s'incarne. De soi, Dieu, c'est quand même Dieu est transcendant. Alors les cathos oublient ça. Il y en a d'autres qui nous le rappellent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Hein. Je ne suis pas de pub pour eux. Donc, en plus, les plus malins du nez de qui je parlais. Donc. Alors, donc, je pense qu'il ne faut pas faire la politique du mépris. Il faut dire, vous, voilà, vous voyez cette vérité, ben, vous la retrouverez, vous reviendrez chez vous, si vous voulez. La rentrée dans le christianisme, c'est le retour à la maison. C'est à vous retrouver les vérités. Enfin, c'est ce que disait Péguy quand il s'est converti. Hein, Charles Péguy, bon, c'est un poète, donc il en enjolivait un peu. Mais quand on se convertit, souvent, on a l'impression de revenir dans le meilleur de soi, quoi. Pas toujours, hein, mais quand même. Tiens, ce que je soupçonnais, tout, ah ben, c'est là. Et quelquefois, on en bave pour retrouver, parce qu'on est arrêté par des obstacles, quoi. Voilà. Alors, donc, on va survoler, hein, je vous ai mis un petit résumé, on va pouvoir faire que survoler cet argument, enfin, cette induction, disons, je préfère parler d'une induction, parce qu'à elle seule, elle ne suffit pas, de la diffusion étonnante du christianisme. Hein. En l'espace de 250 ans, hein, le christianisme a occupé, on va voir à quel degré, pas complètement, mais en partie, l'Oikoumenès, c'est-à-dire la terre habitée, hein, qui représentait à peu près tout le tour de la Méditerranée. Donc, en un espace relativement court, 250 ans, et avec une diffusion qui, pour l'époque, peut quand même être considérée comme exceptionnellement rapide. Exceptionnellement rapide, parce qu'il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas... Bon, les nouvelles circulaient par des porteurs de nouvelles. Le plus rapide, c'est la poste impériale, mais sinon, c'était, bon, il fallait mettre 10 jours pour aller de Jérusalem à Rome, c'est comme ça, voilà. Mais quand même, et puis tous les obstacles sociaux de l'époque, et surtout, je crois, en préparant ce Café Caté, je me suis rendu compte que nous sommes gênés pour réfléchir à cet argument par notre propre christianisme. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué au bienfait du christianisme qu'on se dit, bah, cool, le mec. La dignité de la personne, bah ouais. L'égalité naturelle des gens, bah ouais. La femme, c'est un homme aussi, enfin, c'est un homme, hein, au sens français, vieux français du terme, quoi. Hein, c'est un anthropos, quoi. Bon. Etc. Mais tout ça, ça vous paraît évident, mais ça ne l'est pas pour la nature déchue. La preuve, il y a des religions où ça ne l'est pas. Et à l'époque du paganisme, même paganisme extrêmement avancé, l'égalité foncière des gens était une chose qui était une destruction de l'ordre impérial. Donc il faut se remettre dans ces choses-là pour arriver à un peu flasher, si vous voulez, le fait qu'au moins c'est étonnant. Alors, je vais parcourir en Concorde, enfin je ne sais pas s'il vole encore, mais en avion très rapide. Hein. Guillaume, il y a une place là. Donc, le premier siècle, il y a des tas de textes. Alors, vous irez voir sur le texte complet qu'on va mettre à côté de l'enregistrement chez Eric. Bon, notre Seigneur annonce d'abord lui-même qu'on va prêcher dans tout l'Oikoumenès. Hein, l'Oikoumenès, en gros, c'est... l'Oikoumenès, c'est la zone civilisée, si vous voulez, qui est juridiquement indépendante de l'Empire romain. Là, c'est l'état de l'Empire romain au IIIe siècle. Hein. Il a un peu reculé parce qu'il y a eu des bagarres avec du côté des Mauritaniens et du côté des Goths et des futurs Roumains. Bon. Mais enfin, en gros, c'est la plus grande expansion, une très grande expansion de l'Empire romain. Et vous voyez que c'est quand même étonnant. Ça fait un empire qui va des Écossais aux Iraniens, à peu près. Et pratiquement aux Égyptiens, voire même ça frôle l'Éthiopie et les Marocains. Hein, pour prendre les mots modernes, vous voyez. Et sans parler de ce qu'actuellement on appellerait les Géorgiens, les Russes. Donc il y a des mots différents, mais c'est une réussite politique incroyable, qui n'a jamais exceptionnelle. Hein, les pères de l'Église pensaient que le rôle des Césars était de porter le monde jusqu'à la fin des temps, et qu'il ne disparaîtrait jamais. Donc quand les Goths sont rentrés, ils ont pensé que c'est la fin du monde. Et parce qu'on a peu idée de l'extraordinaire aura, si vous voulez, de l'Empire romain, qui était romain mais qui était grec. Parce que ça, il ne faut pas oublier que cet empire déborde un peu sur la droite, c'est du côté de l'Orient, parce que l'hellénisme, c'est-à-dire le moment où la raison humaine acquiert une certaine autonomie, finalement, hein, les Grecs ont inventé, en quelque sorte, l'exercice vraiment distinct de l'intelligence par rapport aux mythes et aux religions, a, par Alexandre le Grand, voyez, conquis non seulement tout le bassin oriental de la Méditerranée, mais bien au-delà, jusqu'à l'Inde. Et donc toutes ces zones-là sont hellénisées. Soit totalement, soit avec des colonies, comme on le voit là, des capoles, avec des règles spéciales, qui sont les règles helléniques. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est un Macédonien qui a étendu le génie grec d'Aristote et des autres jusqu'aux frontières de l'Inde. Et ensuite, c'est l'Empire romain qui, grignotant les Grecs peu à peu, a assis ça dans un ordre juridique absolument époustouflant, cruel, hein. Brutal et cruel, il faut le dire, mais très intelligent. Donc, moins cruel d'une certaine façon que des ordres qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il sera une des titres de prétention à la divinité des empereurs. Parce que dans la conception immanente pour les anciens, il y a forcément Dieu. Il n'y a pas d'athée. Donc s'il y a quelqu'un qui procure la paix au monde entier, il est Dieu. Avec un petit dé, d'accord, mais il est Dieu. Celui qui dit qu'il n'est pas Dieu, c'est un athée. C'est un chef d'accusation des chrétiens. Donc voilà, cet empire romain, donc, qui est assez bien structuré, là-dedans va se répandre donc, le christianisme, et assez vite, du fait que le christianisme est à la frontière orientale, ça va partir aussi du côté des, si vous voulez pour simplifier, des Iraniens, des Parthes et également des Éthiopiens. Bon, ça déborde du côté oriental et du côté africain. Ce qui est important aussi parce que, même au point de vue liturgique, une petite parenthèse, les langues liturgiques sacrées, c'est le latin, le grec et une langue sémite qui est l'araméen. Parce que, on peut ajouter le copte si vous voulez pour les Éthiopiens, parce que ce sont des langues qui ont représenté une telle culture, le copte c'était des siècles de culture, l'araméen c'était tout le bassin de Euphrate-Tigre, etc. Ça représentait 1000 ans d'avance sur l'hellénisme, si vous voulez. Donc, ils ont résisté à l'emprise hellène. Ça fait qu'actuellement, vous avez, dans le catholicisme, le christianisme, des liturgies en araméen ou les langues qui dérivent, syriaque, assyrienne, chaldéenne, et maronites, et puis d'autres en grec et d'autres en copte. C'est assez intéressant de voir que ceux qui avaient les plus anciennes cultures ont résisté à l'influence universelle du grec. Donc dans cet empire déjà très bien organisé, le Christ dit vous irez prêcher partout, et si vous lisez les Actes des Apôtres ou Saint Marc, voyez, vous rendez compte que c'est réalisé. Que déjà en Judée, on parle de plusieurs myriades de personnes. Barnabé et Paul enseignent à Antioche, donc c'est des villes qui aujourd'hui sont... C'est émouvant parce qu'en préparant ce café caté, je trouve des villes qui sont proches d'une actualité tout à fait brûlante. Donc Antioche, c'est la première fois qu'on a appelé les gens du nom de chrétien, et il y avait une foule énorme, oklonikanon en grec, c'est une foule énorme qui écoutait Paul et Barnabé. Ceci, c'était 25 ans après la crucifixion du Christ. Et alors, le plus émouvant, c'est Rome. Parce que Rome est un peu excentré par rapport à, si vous voulez, le centre de la civilisation, au moins du point de vue de la réflexion et de la culture, c'est quand même l'Hellade, enfin donc toute la Grande Grèce, et puis les centres sémitiques du Moyen-Orient. C'est là où est la civilisation. Hein. Et en Afrique, en Égypte. Bon. Donc, d'accord, le centre politique est à Rome, mais Rome fait figure un peu d'homme fort juridiquement et politiquement, mais ayant un très léger et salutaire complexe, pas d'infériorité, mais de respect par rapport à la culture hellénique, qui au fond créera le dynamisme intellectuel de Rome. C'est la thèse de Bragg, et je crois qu'elle est extrêmement forte. Bon, alors, faisons court à Rome. Tacite nous dit dans les Annales, donc vous avez la référence, hein, la même chose que Saint Clément, le pape Saint Clément, écrivant aux Corinthiens, là en latin, c'est Tacite, l'autre Saint Clément en grec, qu'il y avait à Rome une multitude immense de gens qui ont été persécutés par Néron, comme chrétiens. Multitudo ingens. C'était en 64 après Jésus-Christ. Donc vous rendez compte, c'est quand même assez impressionnant. La chrétienté romaine, on le voit aussi quand on lit attentivement l'épître aux Romains, était quand même structurée déjà, alors que des témoins vivants du Christ étaient encore tout à fait vivants. Donc ça se répand extrêmement vite. Il y a une lettre de Trajan, plutôt de Pline le Jeune à Trajan, en 112. Pline le Jeune est responsable politique, il a un nom particulier qui m'échappe là, dans, si vous voulez, ça sera en Turquie actuellement, en Turquie du Nord, sur les bords de la mer du Nord, hein. Où il y a des chrétiens pour lesquels il faut prier aussi, hein, très bizant et tout ça. En Bithynie, il dit, attendez, je suis débordé, les clés à Trajan, je ne sais pas quoi faire, parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, mais si on manœuvre habilement, les gens vont revenir dans les temples, et on va récupérer une foule immense de gens de toutes catégories sociales. Ça, c'est en 112 après Jésus-Christ. Donc, ça vous paraît peut-être lent, parce qu'on est à l'époque d'Internet. Vous pensez une bêtise, et vous pouvez la faire lire tout de suite à 500 000 mecs, hein, si vous êtes bien connectés. Donc, c'est le progrès dans la légèreté, il faut que je mesure mes mots, et aussi dans le progrès, parce qu'on peut dire la bonne nouvelle. Bon, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Hein. Donc, il est clair, Trajan, qu'est-ce que je fais de ce jeune-là ? Donc, on a beaucoup de renseignements. Voilà. Donc, après une étude très poussée, un certain Harnack, qui est un Allemand de la fin du 19e, qui était un rationaliste, mais un travailleur, qui a fait un gros travail, et dit, bon, bah, il y avait 43 localités, on a la preuve historique de 43 localités où il y a des chrétiens présents en l'ensemble. Ce qui est quand même absolument incroyable. Sans compter toutes les provinces où nous savons qu'il y avait des chrétiens, à savoir l'Arabie, bon, même en dehors de l'Empire, la Syrie, la Cilicie, la Galatie, le Pont, l'Illyrie, tout ça c'est en Turquie actuellement, la Dalmatie c'est ce qui s'appelait à un moment donné la Yougoslavie, une partie de la Yougoslavie. Et puis, alors donc, ça c'est, on est sûr qu'il y a des chrétiens puisque Pierre et Paul écrivent. Et puis, on sait qu'à la fin donc, de ce siècle, le christianisme se présente dans tout l'Orient, au sens large. C'est-à-dire la Palestine, la Syrie, l'Asie mineure, c'est tout le sud de la Turquie, la Mésopotamie, très probablement, c'est-à-dire donc, ce qui va devenir les Parthes, etc. Et peut-être, d'après des études qui sont poussées, actuellement encore pas confirmées, mais quand même très probables, jusqu'en Inde et peut-être plus loin encore par l'apôtre Thomas. Bon. En tout cas, en Égypte, c'est certain, en Alexandrie, peut-être en Éthiopie, et en Occident, donc toute la Grèce, au moins toutes les côtes, les grandes villes, la Macédoine au nord de la Grèce, Rome, et la Campanie, on a une preuve, je dirais, physique du christianisme de la Campanie par les graffitos de Pompéi. Parce qu'il y a eu une éruption, et donc on a retrouvé un graffito, c'est chrétien, donc il remonte certainement avant 79. On a la preuve d'un christianisme dans les campagnes italiennes, du moins du sud, avant 79. Et en Espagne, très probablement, sûrement, pour les Espagnols qui sont là, parce que Saint Paul disait qu'il voulait y aller. Donc on espère qu'il y a été. Alors donc, au premier siècle, voilà, on va être obligé d'aller très vite. Au deuxième siècle, c'est une période de très grand progrès aussi. Alors, il y a un certain nombre de textes. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons les textes des apologètes, donc des intellectuels qui prennent leur lait pour défendre le christianisme, mais nous avons aussi des textes des païens. Donc il y a une fameuse épître à Diognète qui dit que les chrétiens sont présents dans toutes les cités du monde. Bon, alors il était peut-être un peu marseillais, je ne sais pas, mais enfin ça veut dire qu'il y en avait beaucoup, quoi. Et de fait, historiquement, même archéologiquement, on trouve des traces. Saint Irénée, donc, qui est à l'origine, si vous voulez, de la tradition épiscopale de Lyon, affirme, que lui a fait son enquête, que dans le monde entier, la tradition universelle de la foi est identique. En Germanie, en Ibérie, c'est-à-dire en Espagne, chez les Celtes, c'est les Bretons, hein, enfin les, actuellement les Grands Bretons, si vous voulez, au Levant, en Égypte, en Libye, hein, donc encore on est dans l'actualité, etc. Et un apologiste, c'est-à-dire que c'est un moment où les pères apostoliques meurent, c'est ceux qui ont vu le Christ ou ses apôtres, oui, meurent. Donc des fois on les aide à mourir, bien. Vous allez voir ça tout de suite. Et après viennent, et ça c'est les pères apostoliques, et après viennent les apologètes. Ce sont des intellectuels, dont certains sont des philosophes convertis, qui argumentent contre les attaques qui étaient faites contre le christianisme. Certains de très bas niveau, qui arriveront à dominer, semble-t-il, puisque ces attaques se bémolisent beaucoup à partir de 100, 150, et après des attaques beaucoup plus élevées. Et dans ces apologètes, il y a Saint Justin, entre autres, Saint Irénée, et des gens de haute pointure, comme Origène, un génie, Alexandrin, un égyptien, et puis Tertullien, un africain, donc, et Saint Cyprien, tous les deux de Carthage, qui est actuellement dans l'actuelle Tunisie. Alors, donc, une des preuves que nous avons de cette expansion, c'est aussi le témoignage des païens. Vous avez un type qui était assez fort, au moins politiquement, et en tout cas très bon argumentateur, qui s'appelait Sens, qui a écrit quelque chose de très fort contre le christianisme, mais de point de vue politique plutôt. Et alors que Porphyre, qui est connu par les logiciens, était un grand génie grec, était plutôt un anti-christianisme métaphysique. Et Lucien était un salaud. Il y en a un de plus, là, que, Lucien, qui s'appelait Lucien, mais qui était une franche canaille. Voilà. Enfin, lui, c'était c'était assez lamentable, mais il avait de l'influence, vraiment, parce qu'il avait l'art de caricaturer les choses, quoi. Donc, vous avez une attaque populaire, une attaque philosophique, une attaque politique. Eh bien, Cels, après la persécution de Marc Aurèle, donc il y a toute une série de persécutions, ça n'arrête pas. J'ai même fait un petit machin que je prêterai à ceux qui sont sages. Donc vous avez 250 ans de 64, persécution de Néron, jusqu'en 313, où Licinius et Constantin discutent à Milan, il n'y a pas d'édit à Milan. Enfin, ils discutent, ils se mettent d'accord pour arrêter les frais. Et du coup, quelques temps après, Constantin écrit une lettre qui n'est pas un édit, qui n'a pas été envoyée de Milan, mais ça ne fait rien, qu'on appelle l'édit de Milan pour faire joli, qui est une lettre impériale qui dit voilà ce qu'on va faire, une politique de tolérance et restituer les biens aux chrétiens. Donc il y a 250 ans, pendant lesquels il y a des persécutions, je ne dirais pas ininterrompues, mais il y a au moins 16 empereurs qui ont été explicitement persécuteurs, donc 16 persécutions, et sur les 250 ans, on a favoré le calcul, il y a 130 ans de persécution active, et 120 ans, on a peur que ça nous tombe dessus. Donc, alors celle, c'est la persécution de Marc Aurèle, qui était un homme impressionnant. Dans les persécuteurs, il n'y avait pas que des fripouilles, hein. Il y avait des francs salauds, évidemment, hein, comme Néron et quelques autres. Enfin, je m'excuse, je suis un vocabulaire un peu qui n'est pas forcément très académique, mais bon, vous êtes gentil. Voilà. Donc voilà, il y a des francs salauds comme Néron, voilà. Mais il y a aussi des francs salauds qui ne persécutent pas comme Commode. Hein. Commode, c'est l'empereur du film Gladiator, là, pour ceux qui... Je ne vois pas beaucoup de films, mais j'ai vu celui-là. Voilà. Alors, Commode, c'est le fils de Marc Aurèle, donc il n'est pas du tout à la hauteur de son père. Marc Aurèle est un vrai philosophe, quoi. C'est un peu la fleur du stoïcisme, avec ses limites. Hein. Mais Marc Aurèle était persécuteur. Très explicitement, les persécutions de Lyon en particulier. Et donc, ouais, ça montre un peu comme la problématique. Et donc, celle se réjouit que la persécution de Marc Aurèle a détruit des chrétiens partout. Donc, il y en avait partout. Et du coup, après, le nombre a beaucoup diminué. Bon. Alors, ça continue comme ça. Il y a un certain Polycrate d'Éphèse. Éphèse était une plaque tournante. Hein. Là où va Saint-Paul. Saint-Paul, en fait, ce serait un manager terrible, hein, je crois. Hein, votre patron, Saint-Paul. Parce que, en fait, il a calculé pour aller dans les lieux de diffusion. Il va, bon, d'abord, il sort d'une université, il n'était pas du tout ignorant, d'une université qui, pendant le confluence du génie sémite grec et juif, enfin vraiment, hein, et qui était plus forte que l'Athènes de l'époque, à Tarse. Hein. Et puis, hein, il va partout, là où il sait que les gens vont partir. Hein, il va à Thessalonique, il va à Corinthe, Corinthe, il y a deux ports, hein, du côté de l'Isthme et de l'autre côté, enfin, c'est incroyable, il vise vraiment Rome, enfin, donc il manage bien son truc. Hein. Voilà. Mais pourquoi je vous parle de lui? Ah oui, parce qu'à Éphèse, il y a un certain Polycrate, qui est devenu évêque, je crois, qui affirme en 190 que lui, à Éphèse, parce qu'on circulait quand même pas mal, hein, on a quelquefois une idée un petit peu fausse, hein, les marchands, les religieux, les politiques et les philosophes circulaient. Bon, ça ne faisait pas une foule immense, mais enfin, ils circulaient. Et on est étonné, vous voyez, de la fraternité entre disons, les Syriens et les Portugais, pour parler moderne, qui se créent par ce truc-là, ou les gens de Bordeaux, enfin voilà, parce qu'ils s'étaient rencontrés à Éphèse, voilà, tout simplement. L'église de Lyon, c'est des Grecs, hein, les premiers martyrs sont pratiquement tous des non-Grecs. Hein. Bon, donc Polycrate d'Éphèse dit, j'ai rencontré à Éphèse, et puis en baladant, des chrétiens du monde entier, voilà. Et un certain Cécilius, vers la même date, déplore la multiplication de cette exécrable secte, hein, dans un fameux texte qui s'appelle l'Octavius, hein, que Renan qualifiait de perle de la littérature apologique. Renan, donc, est aussi un littérateur fameux et funeste, mais enfin, il connaissait des choses. Et c'est un très beau texte qui fait parler les païens, et sans doute live, c'est-à-dire en réel, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai le Zèbre de Césarée qui est plus tardif. Il donne les objections des Hellènes et des Juifs qu'il a entendus lui-même. Et il les note quand il a un peu de temps, juste après la fin des persécutions. Bon. Donc voilà ce que dit Octavius, le païen. Hein. Semblable aux plantes dangereuses qui sont les plus fécondes, les oratoires ténébreux de cette sacrilège coalition, qui s'accroît avec la perversité de nos mœurs, se multiplient par tout l'univers. Donc à la fin du IIe siècle, on a la certitude qu'il y a au moins 33 villes avec le christianisme en plus, donc probablement 33 évêques, et puis des désignations collectives dans toutes les provinces de l'Empire. Voilà. Et ça va continuer, surtout au IIIe siècle. Ce IIIe siècle va être un grand siècle, parce que c'est le moment où, on commence quand même à attaquer les élites, parce que les calomnies de bas étage, dont je vais vous parler tout de suite, ont quand même été un peu blaboulées. On a commencé à pouvoir parler dans les interpersécutions, et spécialement avec des génies, Tertullien, si vous voulez, un Tunisien, pour prendre un langage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que les termes ne sont pas très adaptés, mais qui a malheureusement terminé dans un radicalisme qui l'a séparé de l'Église. Et Origène, un esprit fils de martyr, un Égyptien, un copte, si vous voulez, un copte, oui, qui est un génie, qui, on peut dire, c'est un des fondateurs de la pensée occidentale. Un très grand génie. Et donc ces gars-là ont écrit, et ils ont écrit au niveau de leur culture. Et en plus, on a eu la conversion de Saint-Justin, qui est philosophe, qui a donc argumenté à partir de ce qu'il connaissait. Et donc Tertullien a décrit le progrès. Or Tertullien, évidemment, on considère qu'il était un peu emphatique. Hein. Donc il y a une phrase célèbre de Tertullien, qui est une phrase, si vous voulez, rhétorique. Enfin, donc les spécialistes savent que la rhétorique aussi permet une certaine... c'est pas de la poétique, mais enfin, on peut aller quand même assez loin dans l'amplification. Mais voilà ce qu'il dit. « Nous ne sommes que d'hier, et déjà nous avons rempli la terre. » La terre, c'est l'ocuménaire. Hein. C'est-à-dire ce que je viens de vous montrer. Bon. Et tout ce qui est à vous, les villes, les îles, les palais fortifiés, les postes fortifiés, donc il a des exemples, c'est vrai qu'il y avait des décurions, des centurions, on verra même des césariens, donc des prétoriens de la garde de César, qui étaient chrétiens. Et on va le voir aussi des sénateurs. Bon. Les bourgades, les municipes, les camps eux-mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, le forum. Donc du temps de Tertullien, c'est-à-dire vers 212, il écrit, il y avait des sénateurs, certains nombre de familles sénatoriales, au moins secrètement, qui étaient chrétiennes. Nous ne vous avons laissé que les temples. On se dit, bon, il exagère. Mais dans un autre texte, il dit, il y a une telle multitude d'hommes chrétiens qui sont presque la majorité dans chaque ville. Et ça, c'est intéressant, dans certaines villes, dans chaque ville, dans celles qu'ils connaissaient. C'est que dans l'Orient et en Afrique du Nord, du moins la partie, ce qu'on appelle proconsulaire, c'est-à-dire, si vous voulez, la Tunisie et puis Constantine, quoi, voilà, c'est ce coin-là. Après, ça devenait un peu plus problématique. Mais c'était vraiment une très grande densité. À la fin, à la paix de Constantin, il y avait certaines régions de l'Orient où il y avait une majorité de chrétiens et au moins la moitié. C'est énorme, quoi. Et ailleurs, il y avait un petit 20e, si vous voulez. Donc c'est quand même très répandu. Parce qu'il y a de gens actifs. Hein. Une religion qui actuellement aura un 20e de Français actifs, elle pèserait dans la balance, quoi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Bon, je termine ma méchanceté là. Et je continue sur Origène. Alors Origène, il est plus calme, il confirme. On est certain que Tertullien ne dit pas que des camps en bistouille, parce qu'à Saint-Cyprien, tu es plus calme. Saint-Cyprien, je vous l'ai dit la dernière fois, il s'était un peu battu avec le pape, pas fraternellement, quoi, puis il était resté en communion avec lui, mais il est mort martyr. Hein. Et finalement, la modération romaine a prévalu sur le radicalisme de Saint-Cyprien, qui voulait exclure tous ceux qui étaient tombés. Tous les mecs qui avaient apostasié, en dehors de l'Église jusqu'à la fin des temps. Et ceux qui avaient signé un libelle demandaient à des officiers un libelle disant qu'ils n'étaient pas chrétiens, même s'ils l'étaient, et libellati, pareil. Pénitence, usquod mortem, sans réconciliation. Alors heureusement que le pape a un peu arrangé les choses. Mais il faut voir, c'est des gens qui avaient vu déchirer avec des ongles de fer leurs enfants sous leurs yeux, quoi. Et les autres se tiraient, quoi. Enfin, se tirer, c'était légitime, mais enfin, apostasie. Bon, donc, c'est quand même le pape qui avait raison. La fameuse querelle des lapsis. Mais enfin, ça, c'est bien, t'es quand même plus calme, t'es un homme puissant. Hein. Et donc, il a dit, mon peuple à moi, donc celui de Carthage, hein, est nombreux, etc. Donc, Tertullien, pour le coin autour de lui, il avait raison. Voilà. Et Origène, qui lui est un scientifique, alors Origène a vraiment été un scientifique néoplatonicien, si vous voulez, mais quand même, un vrai scientifique, si vous voulez, de l'époque. Hein. Alors, il y a des nombreuses expressions qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont dites en biais. Enfin, les historiens savent que quand vous voulez prouver quelque chose, quelquefois on en rajoute un peu trop, quoi. Mais quand vous parlez d'un truc et que par hasard vous dites une chose mais qui est évidente, vous dites, ben, j'ai pris le TGV, donc c'est une preuve, il y avait un TGV qui existait. Ce que je viens de vous parler du TGV tout à l'heure, c'est pas pour vous prouver l'existence du TGV. Il y aura des thèses en l'an 22000. Est-ce que le TGV existait en 2000, machin, bon. Là. Moi, donc, le gars, mais par contre, moi, si un enregistrement subsiste, je sais pas trop, parce que quelquefois on a le plaisir de voir que les trucs modernes, ça se casse. Enfin, un plaisir ambigu, je reconnais. Bon, mais quel bon papier reste, plus ou moins. Enfin, s'il n'y a pas un fou qui brûle la bibliothèque d'Alexandrie, ça c'est encore possible aussi. Bon, mais alors Origène, lui, il dit non, ouais, il prouve quelque chose, et au passage, on s'aperçoit qu'il y avait des chrétiens partout. Au moins des groupes très importants de chrétiens, du moins dans toute l'Égypte et dans toute la partie qu'il connaissait. Donc le christianisme fait un énorme progrès, spécialement entre la persécution dans les 50 années, vous voyez, qui sépare la dernière grande persécution qui est Dioclétien, suivie de deux sous-empereurs, parce que l'époque ils séparent César, Auguste, il y en a quatre, donc il y en avait trois, quatre persécuteurs, et Constantin émergera en dessous d'un des non-persécuteurs. Il jouera ça au point de vue politique, mais bon, il a bien joué, à mon avis, c'est tant mieux, quoi. Hein. Mais en tout cas, jusqu'à Dioclétien, vous voyez, il y a eu 60 ans de persécution moins fréquente et moins universelle. Mais Dioclétien en a déclenché une, les dernières ont été les pires, parce qu'elles étaient très bien faites, si vous voulez. L'agite propre était bien faite, et le fondement juridique de la persécution étant un peu discutable, on laissait en fait les peuples agir eux-mêmes. C'est-à-dire les marchands de statues, ils m'empêchent de vendre mes statues aux déesses, les dénonciations de voisins, on voit ça au Pakistan. Regarde, si vous voulez, même quand la loi existe et que les justes sont sympas et ne veulent pas l'appliquer, il y a des voisins qui, pour des raisons qui sont rien de religieuses, hein, vous dénoncent et vous envoient au bûcher, quoi. Au bûcher ou à la lapidation ou à la mort. Et c'était ça, à grande échelle. Hein. Et donc, même quand il y avait des empereurs sympas qui disaient cool, il y avait des malades ou des excités qui voulaient piquer la boutique et prendre le terrain et qui dénonçaient le gars comme étant religio illicita, on va voir ça, donc religion interdite, et hop, il passait au tribunal. Et donc, ça a été une persécution terrible, Dioclétien. Mais il y a quand même une certaine. À certains accalmies, 40 ans d'accalmie, enfin, relève très relatif, qui ont permis une grande expansion du christianisme. Ce qui fait qu'au IVe siècle, Porphyre, donc cet intellectuel anti-chrétien, se plaint de voir des chrétiens partout. Porphyre est un type qui est en grec, qui est une culture tout à fait universelle. Le christianisme domine toute une partie de l'Orient. Ça, c'est une chose qu'on a du mal à nous, aux occidentaux. Le christianisme, si vous voulez, à la paix de Constantin, est religion dominante dans une énorme partie de l'Orient, hein, spécialement l'Asie mineure, donc le sud de la Turquie, la Thrace, la Chypre, l'Arménie, la fille aînée de l'Église, comme vous le savez tous. J'aime bien dire ça en français pour les réveiller. Le premier peuple qui a adopté par sa constitution le catholicisme, c'est l'Arménie avant la paix de Constantin. Bon. L'Arménie et Édesse, à partir de laquelle il y a eu. Voilà, qui est lié à l'histoire du siècle. Il est notable en Syrie et dans toute une partie de l'Afrique, à savoir toute l'Égypte, la Cyrénaïque. C'est drôle parce qu'on trouve des coupures actuelles entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. La Cyrénaïque est très chrétienne. La proconsulaire, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, la Tunisie et la partie actuelle est de l'Algérie, et la Numidie. Et puis, bon, l'Italie aussi, du moins tout le sud, même à peu près partout, l'Espagne, la Grèce, la Gaule méridionale, pas dans certaines régions du Nord. Et après, on retrouve plus ou moins diffus en Palestine, en Arabie, Mésopotamie, etc., l'autre partie de l'Afrique. Et donc, on a une chose tout à fait étonnante, vous voyez. Ce qui fait que Arnac peut conclure que le sentiment, l'impression qu'ont eu les pères du IVe siècle, donc les grands-pères sans jeu de mots, hein, c'est-à-dire chez nous les grands-pères c'est Augustin, Ambroise, Hilaire et Grégoire, ou Léon, je crois, en 4-4, et en Orient c'est Athanase, les deux Grégoire et Saint-Jean-Chrysostome. Voilà. Donc les pères, Eusèbe, Augustin en particulier, ont eu l'impression que la foi s'est propagée d'une façon étonnante et qu'ils qualifiaient de miraculeuse. Et à mon avis, on peut en effet le faire aussi à cause justement de ce qui s'est développé. Alors donc, je vous ai dit que ça avait commencé de façon assez populaire, mais ça n'exclut pas que dès le début, il y avait des chrétiens sur les marches du trône. Au début, c'est propagé de façon populaire, ça se comprend assez bien, parce que, en fait, les apôtres se sont déplacés dans la diaspora juive, qui est extrêmement impressionnant. J'ai lu un bouquin sur l'état de la diaspora, un bouquin d'un spécialiste, André Paul. Il y avait à peu près, on pense qu'à un moment donné, avant la grande révolte des Juifs sous Trajan, il y avait à peu près 5 à 10% de la population de l'Empire romain qui était juive, d'après certaines estimations. Ils étaient à peu près aussi nombreux qu'ils l'étaient au moment où le bouquin était écrit, en 1950. C'est étonnant, mais alors après, il y a eu les révoltes. Donc c'est d'ailleurs un cas très, très contrasté par rapport au christianisme. Parce qu'il y a eu la révolte de 70 qui les a quand même très... Donc 66-70, la grande guerre judaïque, Titus Vespasien qui ratiboise tout en Palestine. Mais après, ce qu'on oublie, ça j'ai découvert dans ce livre, en 110-112, les juifs de la diaspora se révoltent partout. Parce qu'on les attaquait, ou même attaquait les autres à Alexandrie. Et donc du coup, ça a déclenché le feu partout, ils étaient solidaires. Et les légions ont réprimé ça, politiquement si vous voulez. Mais ça les a décimés. Et après le coup de grâce, 130, Bar Kocheba. Alors là, ça a été la pulvérisation complète. Et c'est intéressant parce qu'il y a un des apologètes qui dit, à un moment donné, nous sommes maintenant plus nombreux que les juifs, pensait-il. Mais ça veut dire être plus nombreux que les juifs, ça représente un pourcentage considérable. Parce que les juifs avaient un statut politique préservé du fait de l'ancienne alliance des Césars, enfin de César, pour m'en parler, avec les Asmonéens et les Maccabées qui se sont unis avec les Romains pour se défendre contre les envahisseurs grecs. Et donc il y a une tradition d'union entre les Romains et les Juifs qui a duré jusqu'aux erreurs qui ont amené la destruction du Temple de Jérusalem en 70. Un regain de fanatisme nationaliste. On a perdu ce pragmatisme. D'ailleurs, évidemment, les Romains n'étaient pas non plus très commodes. Mais disons, c'est ce qui a vraiment... C'est... Parce que les Romains ne pouvaient pas supporter ça. Ils étaient trop forts. Mais... Non, c'est très passionnant, ça. Mais ça montre bien que l'action, si vous voulez, de l'Empire contre les Juifs a été d'un type un petit peu différent parce qu'elle était motivée, par des révoltes politiques qui n'ont pas été le cas des chrétiens. Du tout. Bon. Donc, il y a des attestations donc, de cette circulation de Saint-Paul et Saint-Pierre dans la diaspora. Il parle dans l'épître aux Philippiens de ceux qui sont dans la maison de César. Et on voit dans l'énumération de la finale de Romains, quand il écrit aux Romains, il salue des gens dont on sait qu'ils étaient de famille, si ce n'est sénatoriale, du moins de la noblesse équestre, comme était Ponce Pilate, donc d'un très haut niveau. Donc il y a une diffusion assez impressionnante, même dans les actes des apôtres. Il y a la conversion d'un proconsul. Il y a la conversion sur l'aéropage d'un des aéropagistes, c'est-à-dire un des juges au fond, qui était un des intellectuels hellènes chargés d'apprécier les doctrines. Donc ça, c'est impressionnant de voir dès le début, il y avait certains intellectuels et certaines personnes élevées. On sait, comme pratiquement certains, on peut dire c'est certain, enfin l'abbé Huvelin, donc le grand prédicateur de Saint-Augustin, qui a été à l'origine de la conversion de Charles d'Espoux, c'est un historien, il a fait un cours de l'histoire de l'Église, qui a été pris en douce par des bonnes femmes, qui n'avaient pas le droit d'assister au cours, mais elles se sont mises dans un coin, elles ont tout pris. Donc on a le texte. Et lui dit, le christianisme de la branche aînée des Flaviens est un fait sympa. C'est que dans l'entourage de Domitien, alors Domitien, il n'était pas sympa du tout. Enfin, du moins du point de vue qui nous occupe. Domitien, vous voyez, c'est de 69 à 96. Donc ça a été une longue tyrannie. Ça a été la fin de justement des Flaviens, qui eux étaient plus ou moins tolérants. Et Domitien était plus ou moins persécuteur. Eh bien, son cousin Germain, il a fait mettre à mort, voilà le témoignage d'un historien, Domitien fit mourir Flavius Clemens, qui était alors consul, bien que ce personnage fût son cousin et qu'il eut pour femme Flavia Domitilla, sa parente. L'accusation d'athéisme fut portée contre eux. Donc vous voyez, c'était quand même impressionnant de voir à quel point ça pouvait déchirer. Et le commode dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben ça on le dit un peu plus loin, en fait il y avait le christianisme se propageait absolument partout. Tertullien affirme qu'il y avait de nombreux chrétiens à la cour impériale de Commode, et on pense comme assez probable que la favorite de Commode, si vous voulez pour employer un nom Louis XIVien, quoi, la maîtresse, avait des faiblesses, au bon sens du terme, pour les chrétiens, et qu'elle les aurait évité les déportations en Sardaigne. Donc on se demande si elle n'avait pas eu un précepteur chrétien, et que faute de vertu, au moins à certains plans, elle avait de l'habileté et du courage. C'est pas complètement improbable au point de vue profil humain. À 62 gens, je peux vous dire ça sans trahir aucun secret de confession. Il y a des compartiments dans les gens. Donc elle, cette femme a sauvé, c'est beau, hein, elle a sauvé des chrétiens parce qu'elle était la maîtresse de Commode. Bon, mais il y a des cas plus nobles aussi. Sous Septime Sévère, par exemple, on est à peu près certain que son fils a eu une nourrice chrétienne. Bon, donc ça circulait partout. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder, bon, ça circule, ça va assez vite. Hein. Assez vite, vous, ça vous éblouit peut-être pas, hein, parce que, je sais pas, mais faites 900 km à pied, vous vous rendrez compte, ça va quand même relativement vite, surtout vu la structure d'époque, c'était pas la Sorbonne en mai 68, hein, l'Empire romain. Auguste venait de mettre de l'ordre, il n'y a plus de pirates, on les avait exterminés, hein, bon, on leur a réglé leur compte, ils reviennent de temps en temps, on circulait partout, on a du mal à se rendre compte, il y avait la Pax Romana, bon, petite révolte par-ci, bon, pof, les légions arrivent, 2000, puis c'est réglé. Mais la Pax Romana, depuis l'Euphrate, jusque chez les Bretons, qui ne buvaient pas encore de thé, mais qui avaient déjà des moustaches rousses. Hein. Et donc on se dit, bah, c'est divin, quoi, c'est pas possible, c'est exceptionnel, ça n'existera jamais plus en un sens. Je crois qu'il faut se rendre compte de ça, ça fonctionnait. Il y avait la pensée grecque quand même, qui était quand même assez performante, il y avait quand même des arts libéraux partout, il y avait les rhéteurs, les grammaticiens, les astronomes, les logiciens, il y avait surtout le juridisme romain, et il y avait tout ça qui existait et qui s'appelait le monde civilisé, ce qu'ils appelaient ça les Hellènes ou les Romains, enfin les deux mots se chevauchaient un peu. Hein. Chez les Égyptiens, on désignait longtemps les Grecs sous le nom de Rumi, quoi, de Romains, parce que bon, voilà. Et c'était un truc absolument extraordinaire, ça avait absolument envahi tout ça. Eh bien, 12 personnes, enfin 12 et plus 70 si vous voulez, en quelques décennies, vont, je ne dis pas subvertir, ça c'est la lecture nietzschéenne ou antichrétienne, moderne, qui est fausse, fondamentalement fausse, mais qui vont changer, mais je viens de trouver dans Eusèbe tout à l'heure, là, le mot de révolution, enfin, je ne sais pas s'il est bien traduit, mais c'est un mot qui est évidemment un peu difficile à employer, mais qui est un néotérismos, hein, un renouvellement, un nouvellement, une innovation, si vous voulez, radicale par rapport à, mais qui en plus va quand même sauvegarder tout ce qu'il y a de bon, dans l'hellénisme et dans la raison. Hein. Et rien que ce bouquin que j'ai ici se propose de démontrer par des arguments de raison aux Hellènes et aux Juifs que la religion chrétienne n'est pas contradictoire avec la raison. On a écrit vers le deuxième décennie du IVe siècle dans le Proche-Orient. Donc, maintenant, pour que ça porte un peu ce que je viens de vous dire, si c'était, si vous voulez, je sais pas, les trucs que vous avez là pour lire vos messages... Les palmes, c'est peut-être déjà les iPhones ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez faire des tas de trucs de partout. Ça se répand en 6 mois. Quoi. Enfin, je suis un peu retardataire parce qu'il paraît qu'au bout de 6 mois, c'est déjà archéologique. Bon. Mais ça se comprend, c'est commode. Mais ça ne veut pas dire que la philosophie de l'inventeur de ce truc, c'est la meilleure. Quoi. Vous voyez ? Il faut quand même voir le truc technique. Bon, ben, ça se répand, c'est commode. Enfin, mais là, ce qui s'est répandu, c'est une religion où il y a des vérités surnaturelles. Tout va bien là-bas. Des vérités surnaturelles, une morale difficile, pour le moins, hein, pas impossible, mais difficile sans la grâce, voire impossible sans la grâce, et puis un objet d'espérance inouïe, parce qu'on est habitué, nous l'a dit, de vie éternelle, au moins ceux d'entre vous qui ont un peu de catéchisme, mais c'est quelque chose de très révolutionnaire. Les anciens pensaient au maximum à une survie, plus ou moins flottante des âmes dans le Sheol ou dans les Champs-Élysées, et c'était une vie future qui continuait. Si on regarde les paradis de certaines religions que certains d'entre vous connaissent bien, est-ce que c'est une vie éternelle, c'est une vie future qui continue? Bon, avec des trucs bien ou pas bien, ou plutôt bien, mais voilà. Mais bon, c'est pas... La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu pour l'éternité. Donc c'est complètement révolutionnaire. Dans une amitié de charité avec Dieu. Et on propose ça à des types qui ont été formés... soit à des philosophes qui ont un doute considérable sur tous les mythes païens, soit à des gens qui ont reçu les mystères, les fameux mystères d'Eleusis et d'autres, qui en fait viennent d'Orient, mais qui sont des choses au fond assez lourdes, enfin j'ai un peu à analyser ça à propos de la résurrection, qui tiennent absolument pas la route par rapport à la résurrection du Christ, et qui en plus ont été influencés par le christianisme dès le deuxième siècle, dès le premier, et donc ils n'ont pas du tout cette idée de salut, parce que le christianisme apporte le salut avec une résurrection. Donc voilà, on va proposer à des gens, écoutez voilà, on vous propose des mystères surnaturels, on vous propose une morale qui est différente de la morale ambiante, vous le savez aujourd'hui ce que c'est, que d'avoir une vie morale différente que la moyenne de ce qui vous entoure, et même quelquefois en contraposition. C'est quand même difficile. Il y avait un de mes amis prêtres qui disait, maintenant nous demandons à nos jeunes l'héroïsme. Ben c'est vrai. C'est vrai. Moi je me souviens d'un... je dis ça avec émotion, puisque quand on a un décès dans sa famille, on a aussi le film de sa vie qui revient. Et il y a quelqu'un dont j'ai beaucoup reçu au point de vue philosophique et politique, et qui est mort très, relativement jeune à mon âge, à l'âge que j'ai. Et il nous disait dans sa dernière leçon, messieurs, il va venir une époque où le simple fait d'être chrétien quotidiennement deviendra héroïque. C'était un militaire, pas uniquement un intellectuel, mais une croix héroïque, je me souviendrai toujours. Puis tiens, bon, moi j'hallucinais un peu, parce que je trouvais qu'on était, on était anticonformiste, je trouvais ça plutôt sympa, quoi. Mais héroïque, quoi. Alors, ben, vous verrez, quand vous serez plus vieux, peut-être vous penserez ça. Mais n'ayez pas peur, hein. Parce qu'en fait, si vous y pensez, vous n'y arriverez pas. Mais c'est comme la bicyclette, hein. La première fois que vous pensez que vous êtes en train d'en faire, si vous cassez la gueule. Mais si, n'y pensez pas et vous allez voir. Vous... Après, vous dites, tiens, j'ai fait le truc, voilà, tiens, on dira, c'était héroïque. Bon, ouais. Bon, donc, c'est ouf, hein, comme disent certains. Quoi. Non, mais c'est vrai. Parce que, non, c'est ça l'argument. C'est que c'est pas une montre qui se répand, c'est pas un truc pratique. Il s'agit de croire des trucs qui sont considérés comme irrationnels par les Hellènes et scandaleux par les Juifs. Parce que ne respectant pas la piété juive, si vous voulez. Irrationnel, parce que c'est au-delà de la raison telle que... Bon. Et alors, surtout, il y a les œuvres. Ça, c'est la doctrine. L'espérance, je viens de vous le dire, c'est espérer une vie éternelle. Bon. Alors, bien sûr, il y a une certaine aspiration, mais c'est tout à fait autre chose qu'on proposait. Alors, après, il y a les œuvres. On assiste au passage, alors c'est ça le miracle, à mon avis. Enfin, prenez-le pas comme miracle, si vous voulez, mais c'est un fait historique qui, au moins, doit nous rendre sympathiques et curieux à l'étude de cette période, qui est unique, hein. Parce que maintenant c'est fait. Le miracle de la conversion du monde à des choses différentes de ce qu'il y avait dans le paganisme est fait, la conversion d'une partie du monde. Alors il se renouvelle dans l'émission, on n'a pas le temps de développer l'argument, mais il s'est fait une fois, si vous voulez. Et comment s'est-il fait? Je crois qu'on a du mal à se représenter de la différence que ça... Bon, c'est le passage d'une vie pleine d'habitudes vicieuses invétérées. Pour la plèbe romaine, c'était quand même la cruauté incroyable des jeux du cirque, des crimes contre nature extrêmement nombreux. Hein. Bon, il suffit de voir aussi, là, vous avez sur mon petit truc, il y a une tête de mort chaque fois que l'empereur est assassiné. Et il y a plus d'empereurs assassinés que de présidents de la République. Je ne fais pas de la pub pour la République française, mais, hein, ou que droit de France, si vous voulez. Bon, ça, quand même, il y en a un sur deux ou deux sur trois qui a une tête de mort. Bon. Et en général, c'était les prétoriens ou les familles qui strangulaient le type... quand ils étaient gentils. Ouais. Bon, moi je veux bien que c'était l'élite, tout ça. Alors évidemment, ça faisait pas trop de bruit, c'était entre quelques-uns, le peuple, il y avait ce jeu et tout. Mais les jeux, fallait voir ce que c'était quand même. Hein. Bon. Et puis la morale en général était quand même. Bon. Et puis ça c'était pour le peuple, si vous voulez. Une masse considérable, des dizaines de milliers de clients qui vivaient gratis, à ne rien fiche, à lécher les bottes du patron, qui venaient des grands sénateurs qui leur donnaient de la bouffe, et aller au cirque l'après-midi. Et c'était des dizaines, des centaines de milliers de gens comme ça. Et c'est à cela qu'on a fait dire l'incendie de Rome, qui avait été déclenché probablement par Néron. Enfin, si ce n'est pas par lui, se non è vero, ben trovato, disent les Italiens. Hein. Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Quoi. Enfin, il a foutu le feu ou il a laissé foutre le feu. Et comme tout le monde disait qu'il a mis le feu, ça c'est Tacite qui dit ça. Il dit bon, on va détourner sur les chrétiens. Bon. Mais donc, c'était ça la morale moyenne. C'était quand même assez douteux. Hein. Et il fallait passer d'une sagesse toute humaine, parce que, quand même, les plus hauts exemplaires de la sagesse philosophique. Qui meurt pour Aristote ou pour Platon? Qui meurt même pour Kant ou Hegel? Enfin, à un moment donné, il y a des gens qui sont morts pour Nietzsche, si vous voulez, ou pour Feuerbach, si vous voulez, sous la forme de Marx. Il y a des gens qui sont morts pour Nietzsche. Enfin, c'est pas ce que Feuerbach a fait de mieux, quoi. Mais bon, si vous voulez, ça, c'est des idéologies modernes, c'est un problème un peu différent. Mais les philosophies de l'époque, je suis désolé, il y avait quelques-uns qui étaient des grands, comme Socrate, qui est mort pour la vérité, pour la justice, pour la cité. C'est magnifique, la mort de Socrate. Bon. Mais c'était une infime minorité. Et eux-mêmes se voulaient d'être peu nombreux. Parce que vous voyez, quand on parle de la démocratie athénienne, enfin, le terme n'est pas tout à fait exact, disons, la politéia athénienne, c'est quand même 10 000 types qui sont citoyens, qui ont le droit de vote, 50 000 métèques, les métèques, c'est les commerçants, vous voyez, qui sont libres mais qui commercent, et 250 000 esclaves. Et c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie athénienne. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on était dans une ambiance quand même un petit peu particulière. Hein. Donc, les philosophes ne se prenaient pas pour... le danger, c'était l'orgueil, quoi. Même chez les stoïciens, qui sont parmi les plus séduisants. Le stoïcisme, c'est quand même quelque chose de fascinant. Si vous lisez Simone Veil, par exemple, hein, la pesanteur et la grâce, etc., elle a une attirance stoïcienne excessive. qui lui vient, je crois, parce qu'elle était en fait un peu antisémite. Elle détestait tellement ce que les Hébreux ont apporté de propre, bien qu'elle fût juive, elle était tellement fascinée par la stabilité grecque qu'au fond, pour elle, elle a été très fascinée par le Christ. Heureusement, je crois que le Christ l'a attrapée, elle était chrétienne. Mais si vous voulez, c'est que ça fait peur un peu. Il n'y a pas beaucoup de philosophes. Bon, alors on vous demandait de passer à ça, voilà. Et Saint-Justin qui s'est converti, sous le spectacle des martyrs d'ailleurs, ça on en parlera peut-être la prochaine fois dans la sainteté. Hein. Le spectacle Saint-Justin a vu des martyrs. Et en philosophe, il s'est dit, c'est pas possible. Ces gars-là sont les seuls à mourir comme ça. Je lisais récemment dans les annales des missions étrangères le récit d'un Tonkinois qui est venu trouver les missionnaires. Donc, je veux être chrétien, il m'a dit, mais tu vas, il y a un édit, tu vas mourir. C'est-à-dire, je veux, parce que c'est les seuls qui meurent comme ça, je veux mourir comme ça. Alors, donc, c'est un argument, évidemment. Et Saint-Justin a basculé à cause de ça. Il n'est pas le seul, vous voyez. Mais donc, voilà, Saint-Justin a raconté après, il a écrit la première apologie à l'empereur, je crois que c'était Antonin. Nous prenions plaisir à la débauche, aujourd'hui à la chasteté seule fait nos délices. Nous avions recours au sortilège et à la magie, et maintenant nous nous devons tout entier au Dieu bon immortel. Puis ça continue. Tout ce que nous possédons, nous le partageons avec les autres, il faut quand même le faire. Les haines, les meurtres dévastaient nos rangs. La différence de mœurs et d'institutions nous faisait refuser à l'étranger l'hospitalité de notre foyer. Et maintenant, depuis la venue du Christ, une fraternelle charité nous unit. Ça a été un truc assez extraordinaire. C'est précisément qu'au-delà, si vous voulez, des différences sociales et même ethniques, si vous voulez, et même politiques, sans les nier, attention, hein, les Romains n'ont pas nié l'ordre juridique de les chrétiens, c'est extrêmement important. Parce que ça serait une très grave accusation fausse. Hein. Mais sans la nier, on a dit, bah, écoutez, l'esclave est un être humain, il est mon frère dans le Christ, il peut venir vers le Christ. Lactan a dit la même chose. Ce que les philosophes n'ont pu faire, cette doctrine céleste est la seule à la faire, car elle est la vraie sagesse. Et Eusèbe décrit, justement, dans la préparation évangélique, là, que je suis en train de parcourir, hein, il donne quelques exemples. Ce qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire est sorti des seules paroles du Sauveur. Ça, voilà, c'est ça l'argument de ce soir. Ce qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire. Par exemple, vous voyez, si, ça a eu lieu, bon, d'accord, ça a eu lieu dans telle région, il y a quelques disciples de Sakyamuni qui ont fait ça, d'accord, ou il y a quelques soufistes à telle maman qui ont été bons, etc. Et il y a quelques... D'accord, on n'y parle, magnifique. Mais avec cette ampleur, cette universalité et cette extension, c'est la seule fois. Ainsi, alors il donne des exemples. Hein. Les Perses n'épousent plus leur mère s'ils sont devenus les disciples du Christ. Les Scythes ont abandonné l'anthropophagie à cause de la parole du Christ. Moi, je connais des amis missionnaires qui me donnent des exemples à peu près du même acabit, actuellement. Hein. Donc, alors on est un peu trop habitués. Quoi. On ne voit plus les autres races de barbares célébrer le sacrifice humain aux démons, ni égorger les personnes les plus chères en y voyant un geste de piété. Donc il décrit une mise de coutume qu'il avait notée soigneusement, soit des barbares qui étaient au Limès, soit qui étaient déjà occupés par les Romains. Et alors les païens ont été obligés de convenir de ce changement, et c'est ça qui est intéressant. Non seulement les apologètes ont dit, écoutez, on n'est pas dangereux, on est des bons citoyens, Saint-Pierre nous dit, obéissez à l'empereur, et quand Saint-Pierre ou Saint-Paul, je ne sais plus, les deux le disent de toute façon, le basileus s'appelle Néron, soyez soumis à tout envoyé de l'empereur, car il porte le glaive pour châtier ceux qui font le mal et pour récompenser ceux qui font le bien. Ça, c'est les paroles apostoliques envoyées dans des lettres qui étaient destinées à éviter la police romaine. Donc, ce n'est pas une autodéfense. Donc, les chrétiens n'ont pas renversé l'ordre. Au contraire, les apologètes ont dit, on renforce l'ordre. Pline le Jeune, quand il attrapait ces gens, il ne savait pas trop quoi en faire. On pense que déjà, il y avait un texte de loi qui datait de Néron. Et qui, en gros, se traduisait par « Christianos esse non nicet ». Les chrétiens n'ont pas le droit d'exister. Et c'est ce que Tertullien appelle le vieux décret, auquel fait allusion Claude, quand il a chassé les juifs de Rome, il les chasse de juifs parce que un dénommé Christ, à cause d'un dénommé Christ, il y a du chahut. À l'époque, il ne distinguait pas les deux. Donc ça, c'est sous Claude, donc. Hein. C'est donc avant Néron. Et Claude, lui, comme il semble que déjà Tibère avait essayé de dire, on se pense que Tibère avait su un rapport de Ponce Pilate, lui décrivant la réalité des choses, la jalousie des ennemis du Christ, et que du coup, Tibère a laissé les chrétiens. Mais en tout cas, Claude, à son époque, ne persécute pas encore les chrétiens, parce que le débat était la chose suivante, pour qu'une religion soit admise à Rome, les Romains admettaient assez volontiers différentes religiosités, du moment qu'elle rentrait dans le Panthéon, ça faisait un dieu de plus, mais ça faisait pas des dieux de moins. Et donc, il y avait dans le Panthéon, comme très important, à partir des successeurs de Néron, la théiosis de l'empereur, la divinisation de l'empereur, qui était donc un des dieux. Il y avait deux dieux très importants, qui étaient très vénérés, surtout par les orientaux, avec le caractère un peu radical, si vous voulez, qu'ils héritaient un peu de l'absolutisme perse, qui était Rome et Auguste. Donc si tu dois donner de l'encens à Rome, Rome est divine. Et Auguste qui est divin. Enfin, au moins, il est divin, au moins après Néron. Mais alors, pour être admis comme religion à Rome et en Italie, il fallait un vote du Sénat. Et Tibère lui avait dit, je vais déclarer ce truc du Christ religio licita, avec les religions permises, mais le Sénat avait voté non. Donc il a été coincé. Et en tout cas, Néron s'est appuyé sur le fait que le christianisme était religio licita, religion non permise, parce que s'opposant à l'ordre public, et donc l'a fait persécuter. Et Pline le Jeune, malgré tout, poursuit les gens, ils se demandent un peu ce qu'il va en faire. Ils m'ont assuré que toute leur erreur ou leur faute consistait à se réunir à jour fixe, c'était le dimanche, ils ne l'ont pas dit, mais avant le lever du soleil, hein, les agapes, l'Eucharistie, pour chanter ensemble des hymnes à l'honneur du Christ. C'est la façon de présenter la messe par rapport au procureur de César, qu'il révérait comme un dieu. Mais ça n'a pas l'air de trop le choquer. Hein. Il s'engageait par serment, donc c'est les vœux du baptême, je pense. Hein. Non point à quelque action criminelle, mais au contraire à ne commettre aucun vol, ni fraude, ni adultère, à ne jamais manquer à leur parole, à ne point nier un dépôt, etc. Donc vous voyez, Pline a écrit à Trajan, voilà les gars que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? Seulement, ils ne veulent pas sacrifier à l'empereur. Alors Trajan répond, tu ne les poursuis pas, mais si on te les apporte, tu les condamnes. Et donc, voilà. Et alors Lucien, donc la fripouille que j'ai nommée tout à l'heure, reconnaît, tout en les attaquant, qu'ils avaient une morale extraordinaire, et surtout un amour mutuel qui a surpris tout le monde. C'est vraiment très impressionnant, ça. Il écrit ceci, leur fondateur leur a mis dans la tête qu'ils sont tous frères. C'est marrant, ça. Aussi montre-t-il un incroyable empressement chaque fois que quelque chose arrive qui touche les intérêts communs. Et c'était surprenant, vous voyez. Le pape, le pape actuel, dans son encyclique sur la charité, ainsi sur la diaconia, voyez, donc le service entre eux, service de charité. Très, très bien organisé, avec des fonds, etc. Aussi pour les non-fidèles, mais d'abord pour les chrétiens. Voilà. Et Cecilius, que je vous ai déjà cité, ils se reconnaissent à des signes secrets, c'est ça qui a inquiété au début, c'est que les chrétiens faisaient des choses comme ça, quoi. Premier signe de croix, il semble que c'était ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Puis c'est vrai qu'ils étaient obligés d'être discrets. Puis ils ne pouvaient pas aller au jeu du cirque. Ils ne pouvaient pas aller dans certains actes publics, du moins au premier rang, comme officier. Parce que comme officier, c'est-à-dire comme officier, soit civil, soit militaire. Parce qu'il fallait à ce moment-là faire des gestes païens, si vous voulez. Donc ils avaient ce qu'on appelle l'amixia, ils étaient moins mélangés. Donc ils avaient un genre de vie un peu à part, et puis surtout, quand on les a demandé, le refus de reconnaître la divinité de l'empereur. Et donc ça faisait des gens qu'on a pu traiter d'ennemis du genre humain. Alors là, c'est notre fraternité avec les juifs, c'est que les premiers qu'on a traités d'ennemis du genre humain, c'était les juifs. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas la divinité, des divinités païennes, et évidemment, ils menaient une vie encore plus séparée que celle des chrétiens. Donc c'est assez ennemi du genre humain, hein, parce que vous vivez différemment de nous, ce qui est énervant. Ben vous percevez un peu quelque chose, vous, chrétien d'aujourd'hui, qui est quand même un petit peu minoritaire. Et puis, voilà, vous ne reconnaissez pas nos divinités. Enfin, actuellement, les divinités sont un peu bas de plafond, mais enfin, celles-là, les divinités du vide, on ne les reconnaît pas. Et c'est grave, parce qu'à mon avis, la modernité est une certaine culture du vide. Enfin, c'est ma thèse à moi. Bon, alors, Cels n'ose rien dire sur ce plan-là, et un certain médecin Galénus leur rend hommage, il en est arrivé... certains à ce point dans la maîtrise et la réforme de leur âme qu'ils ne cèdent en rien un vrai philosophe. Alors, un grec qui dit un vrai philosophe, ça c'est un genre, hein, si vous voulez, un gentleman, hein, pour un britannique du 16e siècle. Voilà. Bon, alors il y a donc ces choses-là qui sont quand même étonnantes. Et le père Henri-Dominique Lacordaire, un grand dominicain qui a rétabli l'ordre en France et indirectement dans le monde au 19e, a prêché ici à Notre-Dame sur la description du christianisme et ce qui peut attirer les gens au christianisme. Et il insiste sur... Il a deux très belles conférences sur les vertus réservées qui m'ont toujours beaucoup frappé. On a pris le script, il a donné le texte, hein, mais l'oral était mieux que le texte. Quoi. Mais enfin, quand même, le texte est déjà très bon. Et il dit, au fond, que peut-être que si vous êtes des convertis, enfin moi, c'est ce qui m'arrive aussi, on arrive au christianisme sans doute par la doctrine, mais la doctrine qui est donnée par des hommes. Et ces hommes ont une vertu, ont quelque chose qui nous flash, quoi. Vous voyez, on dit, tiens, pourquoi t'es comme ça? Enfin, pourquoi il est comme ça, celui-là? Et il y avait deux choses qui sont les vertus réservées du christianisme. Qui appelle, il dit, messieurs, ben, il dit messieurs tout le temps, je ne sais pas s'il y avait des dames, mais bon. Car messieurs, vous le sentez très bien, non, il serait condamné par la Ligue, pour l'Observatoire pour les inégalités. S'il existe une doctrine divine, il y a des signes divins, hein, dans la doctrine, dans les institutions et dans les vertus. Alors, il insiste sur les vertus. la preuve perpétuelle et vivante du christianisme, c'est que tout œil, un peu plus tôt, un peu plus tard, découvre en lui des vérités, des vertus et des institutions réservées. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire, il y a quelque chose, vous voyez, c'est pour ça que les preuves, en fait, sont très variables en fonction des personnes. À un moment donné, on découvre quelque chose qui nous, avec la grâce qui nous attaque dedans, qui est au-dessus de la force de la nature. Et il y en a deux particuliers, l'humilité et la chasteté. La chasteté, c'est pas uniquement la continence, hein, les vierges sont continents, et la chasteté, c'est l'usage du mariage selon la raison et la charité. Donc c'est aussi une certaine jouissance, mais c'est la chasteté. Et alors que l'homme est tellement blessé du côté du sexe, c'est ce que dit Chesterton, le péché originel a blessé l'homme spécialement de ce côté-là, pas uniquement, mais enfin, que la véritable chasteté est difficile. Même dans le mariage, un jour, il y a un type qui me dit, mais mon père, comment vous faites? Je dis, et vous? Parce que le gars était marié, je lui dis, bon, vous avez... Enfin, je ne vais pas te poser la question, mais enfin, il a compris, il était marié. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est aussi champion de rester fidèle toute sa vie. Enfin, je ne veux pas faire peur aux fiancés et tout, mais il faut savoir que c'est le miracle du mariage, c'est formidable. C'est magnifique, des gens, là, 70 ans de mariage et tout, ça nous encourage, les gens. Mais c'est un miracle, quoi. Par rapport à la nature déchue. Voilà, c'est quand même exceptionnel. Donc, la chasteté consacrée est étonnante, certes, mais je dirais la chasteté conjugale aussi. Voilà. Et elle a été prouvée par le christianisme. Voilà. Donc, lui, il disait l'humilité, ça c'est vrai, l'humilité, c'est une des vertus réservées. Donc, vous voyez, cette chose qui s'est répandue rapidement est une chose étonnante. Difficile à croire, difficile à pratiquer, et difficile à espérer, quoi. Espérer une vie éternelle. Ben c'est étonnant. Et il faut qu'on soit étonné. C'est pour ça que moi, j'aime bien les convertis. Enfin, j'aime tout le monde. Enfin, j'essaye. Enfin, sauf les damnés. C'est pas théologique. Mais voilà. Mais les convertis sont sympas parce qu'ils nous disent, mais attendez, est-ce que vous avez un vieux truc là? Mais c'est génial, quoi. Vous oubliez, vous êtes des vieux schnocks, quoi. Enfin, vous êtes d'accord avec moi. Enfin, vous êtes plus jeune que moi, mais vous serez bientôt des vieux schnocks. Bon. Alors, maintenant, dernier point. Parce que quand même, ça va, on est dans les temps. Donc, ça s'est répandu assez vite, quoi, 250 ans, hein, pour répandre un truc pareil, pour avoir des sénateurs et tout, puis finalement un empereur, des philosophes, des esclaves, des barbares, des grecs, des bretons, des machins, tout ça, qui professent la même doctrine, et qui en plus, l'accordaire insiste là-dessus, quand bien même le protestantisme se serait répandu dans le monde entier, ça serait une doctrine, encore une doctrine variée. Mais le catholicisme, c'est une institution. Et ce qui est étonnant, c'est que 160 millions de personnes, dit-il, aujourd'hui c'est 1,1 milliard, sont dans un groupe. Il y a une institution, puis la société de l'Église. Mais c'est un miracle. Enfin, on en parlera un peu plus tard, mais c'est inconcevable. Même le protestantisme serait partout. Ce n'est pas l'universalité d'une société, c'est l'universalité d'une doctrine plus ou moins performante, plus ou moins sympathique, d'ailleurs, de plusieurs doctrines. Hein, mais voilà. Donc, cette chose-là extraordinaire, quand même, au moins impressionnante, hein, qui moi, m'a toujours impressionné, je crois que c'est quand même quelque chose de moins à considérer attentivement, à rencontrer des obstacles. Avait peu de moyens, hein, on le dira en terminant, mais surtout elle a rencontré des obstacles, et le plus spectaculaire, c'est les persécutions. Persécutions sanglantes, j'y fais allusion, alors on y reviendra dans, si vous voulez, le martyr comme œuvre de sainteté. On vous dit, il y a un type qui arrive, un gars qui parle, parce que le grec était utile, ça permettait tous les commerçants, les officiers au moins, peut-être pas les soldats, mais les officiers, tous ces gens-là parlaient grec. Donc, un marchand qui arrive de Syrie vous dit viens, demain, il y a une réunion chez les copains, chez le fabricant de tentes, par exemple, un truc qui s'appelle Saul, il vient de Tarse. Il y a un gars qui commence à vous raconter des trucs. D'abord, c'est un juif. Alors, c'est particulier parce qu'il y a un antisémitisme rémanent à certains moments. En même temps, il y a un statut particulier. C'était très respecté par le pouvoir politique, mais il y avait souvent des tensions assez fortes. Donc, c'est un juif qui vient. Les juifs énervaient surtout avec le sabbat. Parce qu'il foutait rien pour le sabbat. Parce que perdre un septième de sa vie, disaient les philosophes romains, c'est de la folie. Bon. Ça, peut-être que les youpies de Wall Street seraient d'accord avec ça aujourd'hui. Mais donc voilà, pour les malades de la technologie, ils seraient d'accord avec cette affirmation. Mais donc, et il vous raconte un truc, voilà, la lumière que vous cherchez, ben, je vous la porte, j'ai vu quelqu'un, moi je l'ai touché avec, comme je touche, là, le gars qui est là, et j'ai touché, ce que dit Saint Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Alors, c'est la vérité du mot de Pascal qui est un peu brutal, hein, comme les mots pascaliens. Je crois les témoins qui se font égorger. Il faut vraiment que ce soit des témoins oculaires, donc ça vaut pour les apôtres et les gens qui ont vu le Christ, et ils sont égorgés gentiment. C'est les témoins qui sont égorgés en bénissant leur égorgeur. Ça, C'est plus difficile. Bon, alors il y a le gars, voilà, ce que vous attendez, moi je l'ai vu, il y a un gars qui raconte ça, il est ressuscité, etc. Et il a fait des miracles. Et puis le lendemain, ce Saul, ben, il guérit votre belle-mère qui avait un gros flux de poitrine, mais à l'époque ça vous amenait à la mort. Et ça n'arrêtait pas, les miracles, il y en avait comme ça, un bon paquet. Et puis en plus, bon, il est charitable, il vide ses mains, il ne vous demande rien. Il n'y a pas, il y a même pas le truc en le bas, là, que vous avez, n'oubliez pas le truc qui est sorti. Et même pas ça, vous avez fait donner ce que vous voulez, lui il bossait comme un fou, c'est le seul des apôtres qui a bossé. Il était drôlement organisé. Hein, il est mort jeune, normalement. Hein. Il n'a pas fait du zoo, de toute façon, tellement ça a été épuisant. Quand il bossait la nuit, il faisait des tentes. La tente, c'est hyper utile. Hein, c'est pas besoin d'aller au vieux trappeur. Hein, c'est les gars, il faisait les tentes. Mais en même temps, c'est un type, il parlait trois langues minimum. Hein. Araméen, hébreu, grec et probablement latin. Et c'était un type, il connaissait, il cite des philosophes. Alors quand Saint-Jean Chrysostome, Saint-Augustin nous disent « des ignorants convertis le monde », il faut mettre Saint-Paul à part. Hein. Peut-être un peu Saint-Jean. Bon. Et bien, ces gars-là me disent « bon, tu viens avec moi et tout ». Il dit « oui, mais l'ennui, c'est qu'il y a une semaine, la police a fait une descente dans le quartier. Et les gars qui sont dit d'accord à votre truc, qui donc ont été là, dans le fleuve, qui passent à côté, là, passent au cirque la semaine prochaine, mais pas du côté des spectateurs. » Est-ce qu'il va les bouffer, ça dépend du dernier arrivage, si c'est d'Afrique ou d'Asie. Quoi. Non, mais c'est pas, et quand vous entendez le bruit, quand vous allez aux autres 25, quand j'étais petit, quand j'entendais le lion, c'est mieux que celui de Goldwyn Mayer, avant les actualités d'autrefois. On avait là, un lion, comme ça, mais trop Goldwyn Mayer. Mais quand c'est le vrai et qu'il n'y a pas de grille entre lui et vous. Non, mais je plaisante un peu, mais je crois que bon, on balisait quand même. Et les martyrs balisaient. Hein. Ils avaient peur. Et bien, ils se convertissaient quand même. Alors c'est quand même un obstacle, là je prends le martyr que comme obstacle. Et les martyrs, il y en a eu, alors évidemment, les chiffres c'est très difficile à établir, mais il y en a eu des palais, des paquets relatifs pour l'époque bien sûr. Les grands nombres de martyrs, si vous voulez au sens large, c'est le 20e siècle. Voilà, c'est des centaines de milliers de martyrs, mais dans un sens un peu différent, parce que parfois ils n'avaient pas le choix. Parce que là, n'oubliez pas que le martyr chrétien, il n'avait qu'un mot à dire, au moins dans la plupart des persécutions, et on arrêtait l'action contre lui. Et donc c'est pour ça que le bourreau qui était un artiste, faisait tout pour faire craquer, quoi. Et les gens suivaient ça comme un match. Quoi. C'est atroce quand on est comme ça. Mais en fait, le plus drôle, c'est, bon, évidemment, ceux qui regardaient, c'est vraiment pas des chrétiens. Hein. Sauf ceux qui venaient pour soutenir les diacres, les diaconesses qui venaient pour prendre les restes, prendre le sang, etc. Mais quand même, il fallait le moral. Hein. Bon. Et bien, ça s'est répandu malgré ça. En plus, il y avait des accusations très graves, si vous voulez. Parfois, moi, je suis obligé d'aller sur Google, enfin, comme vous, je tape un mot pour trouver ce qu'on dit sur Saint-Vincent Ferrier. Un nombre de conneries qu'on peut lire sur mon saint patron, c'est la fête aujourd'hui. Alors, même en espagnol, enfin surtout dans le. Bon, alors là, c'est. Bon. Parce que alors, chacun met ce qu'il veut. Bon. Alors, les accusations les plus délirantes, quoi. Saint-Vincent Ferrier qui a protégé les juifs est accusé de les avoir fait tuer, en plus, des trucs. Alors on les accusait d'athéisme, de refuser le caractère divin de l'empereur, on l'a déjà dit, qui était le ciment de l'empire, d'être impie parce qu'il refusait le culte des dieux. Vous voyez, c'est pourquoi c'est comme quand vous êtes mal poli dans un cocktail, quoi. Aujourd'hui, enfin, il y a des trucs où il y a certains moments dans la conversation, je suis obligé de dire, tu vois, nous, moi, l'avortement, enfin, franchement, c'est pas mon truc. Enfin, ça, c'est l'introduction cool, mais après, il fallait un peu plus loin, quoi. Vous pouvez pas quand même laisser dire, c'est sympa, ou alors pousser votre nièce à avorter, parce que quand même, tu vois, c'est un truc. J'ai bien qu'il y a des drames, mais si vous voulez, c'est quand même. Peut-être que vous allez faire un froid dans la conversation, il faut quand même parfois le faire, enfin. Provoquez pas les gens, mais il y a quand même un truc, des choses qu'on ne peut pas dire et d'autres qu'on est obligé de dire. Ben, eux, ils ne pouvaient pas faire gouzi-gouzi à Jupiter, à machin, donc il y avait 36 noms de partout, sauf bon, pas casser les statues. Alors, celui qui cassait les statues, il ne pouvait pas être martyr. Hein. Dès le début, dans les premières règles, celui qui attaque, qui provoque le persécuteur, il ne sera pas canonisé. Donc les chrétiens, c'est très prudent. On ne fait pas des provocations. Et sans faire de provocation, les chrétiens étaient discrets, c'est plutôt du genre Thomas More que provocateur. Hein. Thomas More qui a cherché à éviter la mort à la dernière minute. Hein. Donc voilà, mais enfin bon, coupable de lèse-majesté, et surtout un truc absolument odieux pour ça à ce moment-là, parce qu'il y avait une vague de syncrétisme terrible. Il y avait à la fois, si vous voulez, l'atténuation, pas la disparition, de l'ancienne religion romaine qui était extrêmement forte, familiale, politique, où il y avait des dieux partout, qui dureront très longtemps d'ailleurs, c'est là où ça résistera le plus, et qui était envahie et phagocytée par la religion d'Extrême-Orient, le désaveu des élites qui ne croyaient plus au polythéisme. L'invasion des mystères extrême-orientaux, mais qui était comme la gnose, quelqu'un m'a interrogé sur la gnose au XXe siècle, c'est un dédale absolument inextricable, il y a absolument de tout et de rien, il y a des choses absolument invraisemblables. Et donc il y avait un espèce de déséquilibre général, et là-dedans il y a des gens qui disent, voyez nous les gars, on est la seule religio vera. Vous êtes des religios politica, des religions politiques, des religions poétiques, des religions mythiques, c'est très beau, mais nous, on est une religion qui se présente formellement comme vraie. Alors donc, si vous voulez, il y a une espèce, tout de suite, ils étaient taxés d'intolérance, et on disait, ça va pas. Ça va pas, mais ils ont eu raison. Et entre autres, on leur disait, écoutez, si le christianisme se répand, l'ordre impérial est fichu. Donc ça a été le gros argument des païens du IVe siècle à partir des invasions. Si l'Empire s'effondre, c'est qu'on ne révère plus les dieux de l'Empire. Saint-Augustin a quitté toute la cité de Dieu pour répondre. Il dit non, c'est parce que les Romains n'ont plus les vertus naturelles des anciens Romains de la République. C'est les vertus naturelles qui donnent l'Empire du monde. Donc c'est une très très forte, magnifique réponse Saint-Augustin. Mais donc, vous sapez l'ordre impérial parce que vous ne reconnaissez plus la différence fondamentale entre les sénateurs et les autres, les hommes libres et les esclaves, les aristocrates et les plébéiens, les Romains et Hélènes d'un côté, et les barbares et les juifs de l'autre. Si vous ne reconnaissez pas ces différences, en fait, on les reconnaissait. Ben, nous les reconnaissions, oui, nous, c'est votre pouvoir dire nous, quoi. Ces gens-là, c'est nous. Ben, c'est extraordinaire. Voilà. Quand vous lisez les actes des martyrs, quoi, c'est difficile de... Il y a ces réponses un peu comme dans le procès de Jeanne d'Arc. C'est des gens à la fois, ils sont... Quelquefois, même, ils chatouillent un peu le gentiment, quoi, l'interrogateur. « Maudit le Christ, il me fait du bien depuis 67 ans, pourquoi veux-tu que j'en dise du mal, quoi ?» Des tas de trucs comme ça, ça c'est la moindre. Hein. Et en plus, alors vous voyez, un truc qui est assez moderne pour vos copains néo-païens, quoi, néo-nazis, etc. Il y en a toujours de... Bon, on aime bien être justement ce qui est le seul truc interdit, quoi. Mais il faut pas. C'est pas fort. Être antisémite ou être néo-nazi, c'est pas de la force. C'est une erreur. Mais donc, on disait, les Romains disaient, mais attendez, vous allez détruire la force romaine. L'andrea, la virilité. Parce que la force romaine, c'est velictis. Malheur aux vaincus. Et du coup, vous êtes dit, ah non, attendez, bon. C'est pour ça que le christianisme a beaucoup changé de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, c'était un obstacle considérable. Hein. Plus les calomnies, ils se réunissent la nuit pour bouffer des enfants. Ça, c'était le premier siècle. En 150, ils se réunissent, ils boulottent un enfant, ils mangent chair, ils se précipitent les uns sur les autres, les mères et les fils violent leur mère, enfin, c'est pour ça qu'ils se réunissent la nuit, d'ailleurs, machin. Voilà. Et Porphyre dira que l'Eucharistie est plus... L'Eucharistie est sauvage et absurde, plus absurde que toute absurdité, plus sauvage que toute la plus grossière des calomnies. Donc vous voyez, il y avait quand même beaucoup d'obstacles, et le christianisme, au fond, est passé au travers. Et même Tertullien a dit une chose qui n'est pas textuelle, mais on l'a traduit comme ça, Sanguis martyrum, semen christianorum, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. La phrase est un peu plus, une période un peu plus ample, mais. Et il montre qu'en fait, lui, il a vu aussi des martyrs en Afrique. Hein. Et il dit, en fait, on était tellement étonnés du fait qu'il... Mais ils avaient peur, bien sûr, ils étaient humains. Hein. Mais ils bénissaient, vous voyez, c'est quand même étonnant. Quand même, le type qu'on va condamner à mort, le droit commun, si vous avez des habitudes, il... Enfin, je sais pas comment vous imaginez. Enfin, vous avez pas vécu là. Moi, j'ai été adulte à une période, il y a encore des condamnations à mort. Pas plus public, c'est vrai. Mais quand même, un type qui meurt comme fait, je crois, là, c'était déjà... Nation était plus publique. Mais une mort, c'est, la mort, c'est comme l'épreuve de vérité. Hein. Donc, celui qui meurt en bénissant celui qui le tue, et en plus, finalement, on voit bien qu'il n'y a pas de chose de droit commun à lui reprocher. Quoi. Donc, eh bien, le christianisme s'est passé au travers de ça. Et il est venu à bout de ça, et le monde s'est réveillé en grande partie, pas totalement, imbibé de christianisme, je ne dirais pas chrétien, mais imbibé de christianisme. Au moment où Constantin a décidé d'arrêter les persécutions. Et le dernier point, donc je prends uniquement Saint-Augustin, Saint-Jean Chrysostome, en fait, ces deux grands génies considèrent les apôtres, vous voyez, qui partent, vous voyez, ils sont des gens peu cultivés, ce qui est vrai pour la plupart, qui n'ont pas étudié. Alors, Saint-Augustin énumère même les disciplines du quadrivium, etc., disciplines libérales latines. Ils ne connaissent pas les doctrines des autres, c'est pas vrai pour Saint-Paul. Mais enfin, en gros, c'est vrai, ils y vont, ils prêchent, et ils convertissent même des philosophes. Imaginez, ils convertissent des gens de l'académie actuelle, ou je sais pas, ou le présentateur du 20h. Ouais, ils convertissent. Comme ça arrive parfois, il y a des mecs qui suivent un parcours chacha, sympa, et puis top, ils sont très chrétiens au bout. Ils sont un peu embêtés, mais ils sont chrétiens. Quoi. Bon, c'est quand même étonnant, c'est sympa, moi, je trouve. Et bon, je prends un succès d'emploi, parce que le 20h doit être à peu près l'aura... qu'avaient les grands rhéteurs de l'époque. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une démesure, vous voyez, entre la mise, si vous voulez, et le résultat. Hein, c'était, et en plus, ils ont fait ça à contre-courant. Mais, c'est-à-dire que ce n'était pas une période de paix, c'était tout le temps troublé. Ils ont fait ça à contre-courant. Et au total, une grande partie du monde habité, et ensuite, dès que l'Église a pu, toutes les autres parties, ont reçu la résurrection. Ça impressionne beaucoup Saint-Augustin, parce qu'il dit la résurrection, c'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, et étonnant, disons, au sens étonnant, c'est que des philosophes, des penseurs, croient cette chose incroyable. Oui. Que le christianisme, qui est quand même une chose qui est vers le haut, le christianisme a ceci d'intéressant, c'est qu'il nous juge, vous voyez. Tout ce que je vais vous dire de bien sur le christianisme n'enlève pas la masse de mal considérable qu'il y a dedans. Je reconnais le mal des chrétiens, les déviations de ses chefs, les abus, etc. Mais c'est en vertu de principes chrétiens que je peux les reconnaître. Le christianisme est une des seules religions où, si vous voulez, l'autocritique, au bon sens du terme, est favorisée par les principes même de la religion. Enfin, une des seules, me semble-t-il. Hein. Donc c'est quand même très impressionnant. Eh bien, malgré le mal qu'il y a, ça a répondu du bien avec des gens qui n'avaient pas humainement les moyens de le faire. Et pour Saint Jean Chrysostome, c'est très beau, parce que Chrysostome a des envolées comme ça. Il dit c'est une continuation de la parole créatrice. Oui. Dieu a dit que le monde soit, et Dieu a dit je bâtirai mon église. Mais il l'a bâti. Il l'a bâti. Et la conclusion, je vous ai mis un texte de la Somme contre les gentils, vous pouvez mettre sur vos sites, au moins cette première moitié que j'ai mis, parce qu'il est très court et très nerveux, et très beau. Et après, il y a une comparaison avec l'islam. Bon, je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez la mettre, oui, si vous voulez, en vous protégeant juridiquement. C'est un texte écrit par le docteur Comin de la chrétienté. La comparaison de la diffusion du christianisme et de l'islam. C'est très intéressant. Donc, devant de telles choses, hein, de cette diffusion, non par la violence des armes, ni par la promesse de plaisirs grossiers, et ce qui est plus étonnant encore, sous la tyrannie des persécuteurs, une foule innombrable, non seulement de simples, mais d'hommes très savants, est venue s'enrôler dans la foi chrétienne. Voilà. Et pour Saint, vous lirez la suite, pour Saint Thomas, c'est le miracle. Ce miracle, en quelque sorte, est fondateur. C'est-à-dire que le monde soit passé d'un certain état à un autre, qui nous est dit un peu difficile de voir, parce que nous sommes dedans. Donc quand on dit, oui, mais il y a ça, le christianisme et tout, mais je le fais à partir de principes chrétiens, vous voyez. Mais quand je critique le christianisme, effectivement, c'est qu'il n'est pas assez chrétien, c'est ce que je dis, vous n'êtes pas, voilà. Mais que ça soit passé comme ça, qu'on soit passé, enfin, vous avez vu le film La Passion, ou des choses comme ça, de ce type de pénalité, comme la crucifixion, qui était quand même assez universellement employée, et ce type de rapport humain entre des gens qui ne se considéraient pas, parce que pour Aristote, le fait qu'il y ait des esclaves, c'est des gens qui sont inférieurs par la nature. Aristote est le plus grand génie du monde. Mais voilà, qu'on soit passé de ça à une pensée quand même beaucoup plus englobante, nuancée et difficile qu'est le catholicisme, pour Saint Thomas, c'est le miracle fondateur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition s'il y a des questions.
Mohamed Christophe. La comparaison avec l'islam, c'est
la suite, je vous l'envoie. Oui, c'est très, très intéressant. Parce que Mohamed Christophe a le site de Notre-Dame de Kabylie. Donc il fait beaucoup d'apostolat dans cette direction.
Voilà, alors, moi je vois souvent de l'extérieur l'œuvre chrétienne. Et je retrouve en effet dans l'humilité et la chasteté quelque chose qui est frappant quand on regarde le monde musulman. On a déjà dans le Christ, hein, évidemment.
Oui. Les vertus chrétiennes. Vous entendez ? Est-ce que Jean-Mohamed confirme ? Vous voyez, on est témoin vivant. Formidable. Oui, allez-y. Par rapport aux orthodoxes, oui.
Seule l'Église catholique
a tous les signes de crédibilité.
Les orthodoxes, donc le baptême et le sacerdoce.
Voilà. Alors, si vous voulez, pour l'orthodoxie, si vous voulez, c'était le café caté de la dernière fois, c'est-à-dire que les orthodoxes, si vous voulez, ont arrêté le développement au 8e, au 7e concile, 8e avec celui des images, concile œcuménique. Donc, il y a beaucoup de choses vraies. Mais ensuite, il y a eu des controverses avec nous qui les ont amenés à laisser de côté, voire à évacuer, voire même à combattre, mais assez tardivement à partir du 12e, 15e siècle, la notion du primat de Pierre. Donc, chez les orthodoxes, il n'y a pas quelqu'un qui se présente comme ayant une vraie juridiction universelle, même le patriarche de Constantinople. Et du coup, ça fait que... Alors ça, il faut le lire chez Soloviev, par exemple, chez les convertis de l'orthodoxie, et chez ceux qui connaissent un peu le monde oriental, dissidents de Rome, si vous voulez. Ça fait que la religion a tendance à devenir quand même nationale, si vous voulez. Vous avez un patriarche géorgien, un catholicos arménien, un patriarche... pratiquement chaque pays, si vous voulez, a son autocéphalie. Donc il y a une dimension où chez les Russes, c'est très frappant. Actuellement, les Russes sont en plein développement. Je m'en réjouis d'une certaine façon, parce qu'il y a une reconquête du christianisme en Russie. Mais, si vous voulez, il y a quand même, il ne faut pas oublier que la dimension, si vous voulez, de l'union, si vous voulez, de l'orthodoxie russe avec le panslavisme, en certains cas excessif, mais en tout cas avec les tsars, avec la Russie en tant que telle, est quand même extrêmement forte. Et donc, c'est quand même une spécialisation qui est la continuation des limites du travail de Constantin. Constantin, et surtout Théodose, Constantin n'a pas proclamé le catholicisme religion d'État. Il a dit on va le tolérer, puis la favoriser, etc. Mais Théodose et ses successeurs ont été beaucoup plus loin. Et donc, forcément, quand un pouvoir tend à prendre la place, il peut y avoir un rapport un peu difficile avec le pouvoir spirituel. Et donc, si vous voulez, après la séparation entre l'Orient et l'Occident, les basileuses, donc les basileïs de Constantinople, ont vraiment le basileus passait avant le patriarche. Enfin, c'était pour vous dire que moi, je l'ai peut-être dit au dernier café caté, j'avais un oncle qui était ambassadeur à la Cour Saint-Pétersbourg, hein, donc un des derniers. Et j'ai les notes de ma tante, enfin, non, le rapport privé de ma tante est officiel de mon oncle. Alors, c'est drôle, c'est la même chose, mais c'est pas. Alors, il décrit des cérémonies, quoi, mais l'arrivée du tsar, enfin Nicolas II, hein, dans la famille, on a un portrait dédicacé de lui, c'est mouvant. Hein. Et c'était un personnage, je ne dirais pas divinisé, non, parce que mais c'était l'autocrate. S'il a refusé les réformes qu'il aurait fallu faire, qu'on a failli lui proposer, c'est qu'il pensait que c'était théologiquement impossible à cause de l'autocratie, vous voyez. Et ça lui était inspiré par les orthodoxes radicaux. Donc, la limite la limite de l'orthodoxie, c'est quand même un peu une difficulté, si vous voulez, à distinguer vraiment les domaines. Quoi. Et en plus, je pense. Une fragilité dans l'évolution homogène du dogme. Parce que la plupart des orientaux croient l'Immaculé, mais ils ne veulent pas qu'on en parle parce que ça a été défini par les latins. Enfin, je pousse un peu, mais voyez, il y a une telle... C'est l'ancien, ce qui est ancien. Moi, je suis à fond pour ce qui est ancien. La preuve, j'ai un habit qui a 8 siècles. Pas celui-là, mais la coupe, quoi. Mais je veux dire, attendez, je me viens en TGV, quoi, parce que sinon... Donc, voyez, la limite... Bon, je le dis gentiment parce que j'aime beaucoup les orientaux, hein. Mais si vous allez au Mont Athos et vous êtes prêtre catholique, donc vous êtes obligé d'être discret. Mais moi, comme mes confrères, on lui a dit, mais tu es pas prêtre parce que tu n'as pas la barbe, quoi. Le prêtre a la barbe. Bon, c'est un petit côté, si vous voulez. Mais enfin, ça montre que si les orthodoxes ont des signes de crédibilité. En particulier, il y a eu des miracles eucharistiques, hein, c'est vrai, dans l'orthodoxie en faveur de l'eucharistie. Mais ils n'ont pas l'ensemble, en particulier, ils n'ont pas, à mon avis, le catholone, la catholicité... Vous pourrez lire la conférence, j'ai mis un lien, enfin c'est pas vraiment un lien, mais enfin vous êtes plus fort que moi en informatique, et vous trouverez à la fin de mon papier la conférence de Lacordaire qui parle de la catholicité. Alors bon, c'est le style romantico-classique de Lacordaire, mais c'est très beau. Et ça, vous ne trouvez pas ça dans le catholicisme, dans l'orthodoxie russe.
Point de vue de la statigraphie sociale, dans les premiers temps, le départ, c'est les hommes et les femmes chrétiennes appartenaient à quelle classe sociale en Israël ?
En Israël, il y avait un peu de tout. Hein. Parce qu'en Israël, le problème était un peu différent. La position des classes sociales était plus complexe en Israël. Parce que vous aviez la hiérarchie sacerdotale, donc les Sadducéens, vous aviez une sorte d'élite observance qui était les pharisiens, et vous aviez une élite un peu genre mandarin qui était les scribes. Et puis là-dedans, des différentes écoles spirituelles, les pauvres de Yahvé, Zanaouim, les Esséniens qui ont fait schisme, différentes. Et donc il y a eu des gens de partout. Il y a eu des gens de partout, en particulier de l'aristocratie et même de la cour royale des Asmoniens, qui ont suivi le Christ dans les femmes qui suivaient le Christ. Mais en gros, c'était plutôt des Galiléens, donc si vous voulez, PME. Quoi. Mais il y avait aussi il y a eu assez vite aussi des gens, même dans les premiers convertis, c'était comme un centurion. Quoi. Centurion, si vous voulez, c'est un capitaine ou un chef de bataillon. Quoi. Alors chez les Romains, je crois, il semble bien comme ça, c'est quand même commencé par les petites gens, mais très vite Saint Paul et Saint Pierre ont atteint, si vous voulez, les élites éclairées qui s'intéressaient au mouvement des idées et qui avaient un esclave, parce que ça passait souvent par les esclaves qui étaient précepteurs. Oui. Donc, et alors après, ces élites-là eux-mêmes ont eu une influence sur le peuple et donc il y a eu un mouvement en bas, les pauvres, hein, ceux à qui c'était. C'est quand moi je suis très ému au rite byzantin, on chante les béatitudes. Les béatitudes, c'est incroyable. Les gens qui, pour la première fois, nous on les connaît, et vous entendez ça, la première fois de votre vie, vous entendez les béatitudes, ou notre Père, quoi. Attendez, on est assis, quoi. Et donc, voilà, ces pauvres ont été attirés, et leur maître les plus fins, les plus ceux qui étaient en attente, il y avait quand même une attente du monde païen, une certaine lassitude, un peu comme aujourd'hui. Une lassitude de trop de force, de trop de puissance, ça n'arrêtait pas, si vous voulez. Ça. Et donc. Et puis un désir d'être immortalité. On voit sur les inscriptions païennes, dans les catacombes, hein, dans les cimetières païens, une aspiration à du moins l'immortalité. Voilà. Donc il y a un esclave qui dit, écoute, il y a une nouvelle doctrine intéressante. Et alors donc certains sénateurs sont convertis, et après avec leur influence, ils ont influencé les autres. Mais ce qui a été décisif, c'est le basculement des intellectuels avec Saint-Justin et d'autres. Qui ont écrit alors carrément avec les... Oui.
Vous disiez que les païens pratiquaient la magie.
Oui, certains d'entre eux, la magie. Les païens pratiquaient la magie.
Est-ce qu'ils ont pu prendre Jésus pour un magicien?
Oui, justement. Ça a été le cas. Ça faisait partie des grandes objections. Disons, la liste canonique des objections du début, c'est vos miracles sont tenus par la magie. Et donc, il a fallu que les apologètes, ça fait partie des choses que réfute Eusèbe de Césarée, montrent la différence entre la magie et le miracle. Et ça, c'est le topo que j'ai fait sur le miracle, c'est le contexte, oui, qui permet. La magie, c'est un peu, je dirais, une médecine parallèle. Tandis que le miracle, c'est quand même en direction de la vérité. Quoi. La magie n'a pas un but de vérité, si vous voulez. C'est plutôt un but d'efficacité ou de guérison. Donc, on a établi la différence à partir de là. Mais en effet, le christianisme a été accusé de pratique magique.
Moi, ce qui me frappe, et vous en parlez pas comme un obstacle, c'est en fait le développement pratiquement immédiat de la gnose, de tout ce qu'il y a.
Voilà. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Il y a quelqu'un qui me parlait de la gnose aux origines au XXe siècle, et c'est vrai que dès que le christianisme a avancé, mais c'est très intéressant pour l'intellectuel, mais je ne veux pas trop... Je crois que c'est tellement difficile la vérité, oui, pour moi c'est aussi une des preuves de ma spécialité en dehors de ça, si vous voulez, c'est un peu la métaphysique. C'est vraiment une discipline, c'est une sagesse très difficile. Donc quand vous avancez, vous êtes sur une crête, si vous voulez, et vous rendez compte qu'il y a des esprits très intelligents partout, quoi. Mais intelligents, mais déséquilibrés. Le génie, j'ai remarqué, enfin moi je vous ai inventé un filtre anti-génie qui permette de capter ce qu'il y a de bon dans le génie, parce que je connais un certain nombre de génies qui souvent sont catastrophiques, quoi, pour leur famille et pour leur entourage, quoi. Bon, alors il faudrait faire le filtre anti-génie. Alors le christianisme, c'est un truc génial, mais alors il y a des tas de malades autour, enfin de malades, ou de types qui sont emballés, si vous voulez, par un aspect, et qui, paf, ne voient plus que ça, vous voyez. Et donc ils commencent à cogiter à fond tout seul dans leur coin, ou avec deux ou trois, et ça a donné la gnose qui a été l'ennemi pendant 150 ans, où justement, la gnose, ça a été un peu l'idée d'insister sur la connaissance et d'insister sur un côté désincarné du logos, de mépriser, si vous voulez, le côté de l'incarnation, quoi. La libération par la vérité purement spirituelle, le verbe, etc., considéré comme purement spirituel. Et donc, ces gnoses ont été permanentes. Saint Jean passe son temps à les attaquer. Alors, je crois que, si vous voulez, c'est le voisinage. De même que j'ai remarqué que les âmes mariales, les chrétiens qui aiment bien la Sainte Vierge, ordinairement combattent le démon et croient assez bien le caractère personnel du démon, mais c'est pas par folklorisme ou exotisme et tout, parce qu'un petit démon ça fait bien dans le paysage et tout, ça fait bien, quoi. Sauf quand vous faites l'exorcisme, il faut avoir, ça fait pas si bien que ça, mais je veux dire que démon ça c'est à la mode, quoi. Mais j'ai marqué une âme mariale dit elle sent qu'elle combat le démon. Comment ça se fait? Et je crois que le christianisme, c'est un peu ça. Si vous voulez, le diable a vu que c'était quand même assez performant. Quand vous lisez l'évangile de Saint Jean, enfin, C'est le premier texte que vous avez lu, je crois. Et c'est extraordinaire, quoi, tout le prologue, enfin, c'est pouvoir Bossuet parlant du prologue de Saint-Jean dès le début, l'aigle s'élève, etc. Il prend son commencement dans l'éternité. Enfin, quand vous lisez ça, vous êtes fasciné. Voyez, le danger du génie, c'est une très grande tentation diabolique. C'est-à-dire, c'est magnifique, je suis en dehors de tout, le monde s'efface, il y a une espèce de... Voilà, les choses s'effacent et moi, je suis là-dedans. Voilà. Et donc, le démon s'est collé là tout de suite pour essayer de tuer le christianisme à l'origine. C'est la grande vision du chapitre 12 de l'Apocalypse. La femme enfante, hein, c'est l'Église qui engendre les élus, et le serpent cherche à le tuer. Et dès le début, si vous voulez, il a essayé de l'étrangler par la gnose. Quoi. Et au fond, le christianisme a dû se battre d'abord pour prouver que Dieu... pour prouver, pas tellement la spiritualité de Dieu, mais qu'il s'était incarné. Le caractère charnel du Christ. Donc c'est vrai que ça a été un obstacle, parce que les gens étaient un peu perdus, et c'est là où le critère apostolique est décisif. C'est pour ça que j'ai dit, ma conférence n'est qu'une confirmation. En fait, pour savoir la vérité, on allait voir l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, enfin, l'homme qui a vu Polycarpe, qui a vu Saint-Jean. Qu'est-ce qu'il disait le Christ là-dessus ? Puis les gens, ils savaient écrire, puis ils mémorisaient. Je vous ai parlé des techniques de mémorisation fabuleuses des sémites. Hein. Et donc, les disques durs se conservaient dans la tête des gens. Hein. Et donc, on avait les choses, et on savait, non, la vraie doctrine, c'est l'incarnation. Donc, c'est la filiation apostolique dans les grands sièges d'Orient et d'Occident qui permettait de se dépatouiller là-dedans. Mais de fait, c'était une séduction, mais c'était une séduction d'oral de rattrapage, si vous voulez. C'est-à-dire, il y avait d'abord le christianisme qui arrivait. Mais évidemment, à un moment donné, la gnose aussi était concurrente. Quoi. Mais c'est sur cette ambiance chrétienne que la gnose venait. Mais en effet, ça a été une difficulté. Et le christianisme s'en est sorti. Moi, je veux dire, le christianisme s'en sort, et demain, il s'en sortira encore. Enfin, je vous prends le pari. Hein. Je vous parie $3,000 contre 3 plongeurs en tenue de combat. Que le christianisme va continuer parce qu'il est catholique. Catalogne. C'est qu'il est le seul qui arrive à tenir tout. Il tient la chair du Christ, sa divinité. Et il le tient, et il a un visage, il a le sein qu'il me faut pour me dire ça. Bah, cherchez bien, si vous trouvez mieux, venez me le dire. Je crois que c'est ça le catholicisme. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir tout. Alors évidemment, il y a plein de difficultés, je sais bien. Et ce que dit saint Augustin, qu'il vous condamne ceux qui n'ont pas erré, qui n'ont pas souffert pour trouver la vérité. C'est très difficile de trouver la vérité. Donc il faut respecter les gens qui sont bloqués sur une difficulté. Il y a des difficultés partout. Mais à un moment donné, la grâce fait qu'on va dans la profondeur, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va... Qu'est-ce qui soutient tout ça par-dessous, quoi ? Voilà, ça ne veut pas être purement humain. Donc on a vaincu la gnose, comme aujourd'hui on va vaincre le matérialisme. C'est dit. Et en effet, c'est un autre. La victoire articulée avec l'Apocalypse. Bon, l'Apocalypse, c'est un texte fascinant. Moi, j'ai lu ça pour ma récollection de communion solennelle. C'est un bon bout de temps. Et je comprenais rien, mais j'étais fasciné. Et je suis en train de le relire actuellement, je suis toujours aussi fasciné. C'est un texte absolument magnifique. Avec beaucoup de degrés de lecture, soit une lecture, si vous voulez, qui décrit un peu, au fond, une sorte de perspective historique problématique, soit au contraire une perspective cyclique, c'est en fait toujours l'histoire de l'Église avec l'opposition avec les démons. Mais en fait, historiquement, c'est d'abord le combat contre les premières persécutions. Néron, et puis peut-être celle qui a suivi après. Et donc, dans l'Apocalypse, il y a un cri contre Babylone. Alors, Babylone, c'est pas en Irak, hein, c'est Rome. C'est le nom. Voilà, le nom clé, voilà. Et parce que saint Jean, vous voyez, il fait parler les martyrs qui sont sous l'autel et qui commencent à en avoir un peu marre, quoi. Parce que la persécution de Néron, il fallait voir ce que ça a été, celle qui a suivi ont été terribles. Bon, vous savez, les chrétiens servaient de torche pour illuminer les jeux de Monsieur Néron. Les chrétiens, c'est le premier martyr, ça a été ça. Il a allumé les chrétiens comme des torches pour montrer au peuple que les coupables de l'incendie, c'était lui qui a fait l'incendie. Et alors, évidemment, il y en avait un peu à la casquette, quoi. Ça continue après, sous les suivants, là, Domitien et compagnie. Et donc, c'est celui d'après. Mais Saint-Jean a dit, bon, il y a un moment donné, ça va, c'est un livre de consolation. C'est un livre de consolation qui dit aux chrétiens qui voient leur sœur emmenée dans le cirque, quoi, comme, je sais pas, Sainte Perpétue, livrée à un taureau furieux, etc. Et Sainte Perpétue, renversée par le taureau, le premier geste qu'elle fait, c'est de se recouvrir, parce que sa robe avait été bousculée, quoi. Les païens qui étaient quand même des esthètes ont noté ça. Quoi. On a des actes des martyrs extraordinaires. Foxy, le mystère de la femme a beaucoup fasciné les... Ces femmes, c'était étonnant. Quoi.
D'ailleurs, bon. Très étonnant.
Joseph est un bon conférencier.
À Saint-Michel, là, sur le boulevard Saint-Michel, il y a plusieurs années de ça, il y a 2-3 ans, il y a une femme qui est tombée, enfin, elle a été renversée, percutée par un taxi qui remontait en sens inverse. C'est une jeune femme. Et le premier geste qu'elle a fait, alors que vraiment c'était un choc, un bruit vraiment étonnant. Là.
C'est le geste de Sainte Perpétue.
Tout à fait, c'est le geste de Sainte Perpétue. Donc la pudeur, que peut la pudeur, voilà. N'est pas nécessairement comme on
non,
dit,
c'est naturel aussi. Voilà. Voilà. Alors donc Saint Jean a écrit pour consoler les chrétiens en disant écoutez, les souffrances sont présentes. En fait, je veux dire, le martyr, c'est la vie chrétienne en visible, parce que la vie chrétienne, c'est adhérer à la croix du Christ, donc pour être sauvé, pour sauver le monde. Et donc on accepte les épreuves. Est-ce qu'on a vraiment accepté ? Question. Les confesseurs parfois se demandent. Bon, on accepte, d'accord. Mais le martyr, c'est évident, parce qu'il peut dire non et il se barre. Je ne suis pas chrétien, il va prendre son café crème avec du sucre. Donc, si vous voulez, le christianisme, c'était très spectaculaire à cause de ça, mais il fallait consoler les chrétiens. Ils disaient, écoutez, vous affrontez la bête de la terre qui est le pouvoir politique, la bête de la mer qui est justement la gnose, enfin le pouvoir spirituel dévoyé. Mais le Christ a déjà vaincu. Il y a un très beau passage de Romano Guardini dans Le Seigneur, justement, et dans Les Fins Dernières, le père spirituel du pape, un des pères spirituels du pape actuel, Romano Guardini, il décrit ça, que l'Apocalypse, c'est la montée de la persécution jusqu'au moment où Dieu dira « ça suffit ». Et donc, cette souffrance n'est pas inutile. On console les martyrs, et on décrit le châtiment. Quelqu'un qui fait du mal déclenche, alors ça, Guardini a des phrases extraordinaires là-dessus, j'en ai parlé dans Les Fins Dernières ici. En fait, la violence, si vous voulez, et c'est un sentiment aussi un peu grec, qu'il y a un châtiment immanent, si vous voulez, à l'acte transgressif. À partir du moment où vous faites du mal, actuellement, le fait de tuer les enfants, une grande meurtre d'enfants, 200 000 enfants sont tués en France, chaque année, 220 000. Et bien, c'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant parce que c'est des choses qui enclenchent, si vous voulez, en eux-mêmes, la violence humaine et... Ouais, ça revient nécessairement. Alors, il a voulu les consoler en disant, écoutez, voilà, il y a la violence, mais malheur, malheur, malheur. Ça ne veut pas dire qu'il souhaitait la destruction, qu'il souhaitait que les gens... Rien n'en fait ça, pas du tout. Mais c'est le style apocalyptique des anciennes apocalypses juives, dans lequel on décrit, vous voyez, les choses avec des termes qui, traduits par nous occidentaux, sont considérés comme des malédictions. C'est qu'on dit, ben, vous persécutez, vous attirez sur vous le malheur. Ça ne veut pas dire, pendant ce temps, Saint Jean priait pour la conversion des persécuteurs. Et donc Saint Jean n'est pas opposé à Saint Pierre ou Saint Paul. Parce qu'on a dit Saint Pierre et Saint Paul, on dit soyez soumis à l'empereur. Et Saint Jean dit malheur à Babylone, elle va tomber. C'est les deux. Il faut être soumis aux puissances. Et en même temps, il faut prier pour leur conversion. Parce qu'on sait qu'elles s'attirent elles-mêmes, le châtiment éternel. Et aussi un certain nombre de désagréments temporels dans la nature même de l'acte qu'elles font. Les gens qui tuent les enfants ou qui n'adorent pas Dieu. Je crois que c'est un des grands syndromes occidentaux. On tue les enfants et on n'adore pas Dieu. C'est gênant. Naturellement, je crois. Il y a des religions où on ne tue pas les enfants, on adore Dieu. Ça donne une certaine force naturelle. Il y a plein de défauts à côté, mais attendez. Vous voyez, c'est des choses que l'on doit réfléchir. Et donc Saint Jean dit, attendez, ces choses-là se déroulent, mais il y aura une fin et il y a une consolation. Vous portez le monde, en fait, dans votre souffrance, vous portez le monde. Et donc c'est vrai que 200 ans après l'Apocalypse... arrive la paix de l'Empire et tout ce qu'il y aura après. Et c'est un livre très fascinant, l'Apocalypse. Si vous allez à Angers, il faut voir la tapisserie. Et avec un bon commentaire, c'est extraordinaire. Alors, une dernière question avant de vous libérer.
Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve le mardi 3 mai, même lieu, même heure. Et je vous demanderai de ne pas oublier pour les événements des personnes. Merci beaucoup et très bonne soirée.
Thank you.